Donc comme je vous disais, j'ai fait ma thèse sur, alors c'est pas exactement une bestiaire, mais il y avait des animaux dedans, sur un manuscrit enluminé qui est, je vous ai porté la publication de ma thèse, enfin, j'en suis très fière. C'était sur le pontifical de Pierre de la Jugie, qui est un livre liturgique religieux, qui est conservé à Narbonne, à la cathédrale de Narbonne. Et le personnage en question, la Pierre de la Jugie, c'est un... Il va devenir cardinal, c'est un archevêque, et il est originaire du Limousin, notamment autour des Glotons. Donc on reste un peu dans la même zone. Oui, donc si vous voulez venir le feuilleter, le regarder à la fin... Je ne vous ai pas apporté des exemplaires à acheter parce qu'ils coûtent un bras, je crois qu'on peut le dire. C'est une édition universitaire pour les bibliothèques, mais bon, au moins vous verrez un peu ce que ça donne.
Une centaine de...
Oui, 125. Ah, c'est un peu cher la page.
Vous pourrez le refaire tout à l'heure.
Voilà, vous pourrez le regarder tout à l'heure. Et donc dedans, il y avait ce manuscrit du XIVe siècle où on commence à représenter des animaux de manière réaliste. Naturaliste, il est proche d'un animal réel, un dessin vraiment attentif sur l'animal, et c'est un peu ce qui m'a conduit à étudier la question du bestiaire. Et même en général, c'était un sujet qui m'intéressait en soi, de savoir comment on représente les animaux au Moyen-Âge, quelle situation ils occupent dans la vie des gens, dans la vie quotidienne, mais aussi du point de vue des religieux, des clercs. Enfin, c'est vraiment un sujet assez passionnant. Et je vais vous présenter une synthèse aujourd'hui rapide de.
Préférez que je prenne le micro ? Je crois que tu as dit.
Ouais, comme il y a du monde. Et comme ça, vous verrez l'ensemble du... Ça va mieux. Voilà. Même pour moi, ça ira mieux sur la longue durée. Donc, pour cette présentation, ça va être beaucoup de belles images, ou d'images que j'aime bien, que je vous ai mises, avec essentiellement, au début, une question sur le bestiaire médiéval, la position des animaux, et ce qu'on sait sur les animaux au Moyen-Âge, et les actes de recherche sur ces questions. Et aussi, ensuite... la question de la place de l'animal au Moyen-Âge d'après les textes écrits, qui sont plutôt du coup un témoignage religieux, ce sont les lettrés, c'est des clercs, donc c'est un témoignage lié à l'Église, sur la place de l'animal. Et enfin, ce qu'on appelle le bestiaire proprement dit, qui en fait est un vrai... On utilise bestiaire au sens général pour tout ce qui est relatif aux animaux, mais en vrai, bestiaire, ça a un sens aussi plus précis, qui est vraiment celui d'un livre où les animaux ont une place particulière, où ils servent à démontrer autre chose. Donc on parlera du bestiaire à la fin. Du bestiaire au sens strict, disons médiéval, même si on utilise ce terme aujourd'hui de manière plus large. Donc les recherches sur l'animal médiéval, c'est vraiment un sujet en train de se développer. Vraiment, c'est en train de devenir... Il y a des thèses en cours là-dessus. Ça a commencé en vrai très récemment, dans les années 80, à peu près, on a commencé à avoir des travaux sur ces questions. Notamment un livre de Robert Delors qui s'appelle « Les animaux ont une histoire ». Où en fait on insérait l'animal dans le champ historique, alors que jusqu'à présent l'animal c'était vraiment pas un sujet en soi, c'était même un sujet un peu considéré comme fantaisiste. Si vous connaissez Michel Pastoureau, qui est un historien médiéviste, qui justement est connu, fait beaucoup de vulgarisation sur ces sujets, c'est vraiment celui qui a popularisé les études sur le Moyen-Âge et les animaux au Moyen-Âge, les couleurs aussi, hein, mais ça reste dans le même champ. À l'origine en fait il a fait sa thèse sur l'héraldique médiévale, donc sur les armoiries. Et dans les armoiries, il y a des animaux et il y a des couleurs. Et donc à partir de ça, il a développé les animaux et les couleurs. Et il a ouvert tout un champ d'études où, voilà, il se dirige, vous pouvez trouver sa page, vous voyez toutes les thèses qu'il aide, qu'il dirige. C'est toujours des thèses sur les animaux, les couleurs, les plantes aussi. Enfin, énormément de champs historiques qui jusqu'à présent étaient considérés comme fantaisistes, peu dignes d'intérêt. Alors même que vous allez voir, quand on étudie les manuscrits médiévaux, dès qu'il y a des enluminures, il y a quasiment à chaque fois un animal. C'est vraiment, enfin, c'est pas un champ. J'ai pas sélectionné des images, bon, c'est des très beaux manuscrits, tous les manuscrits sont pas comme ça, mais dès que c'est enluminé, en général, il y a des animaux qui se promènent quelque part. Donc, l'animal est extrêmement présent pendant le Moyen-Âge, donc c'est un sujet digne d'intérêt. Donc, voilà pour un peu les débuts concernant les débuts des recherches sur l'animal dans le champ historique et international. Là, je parle de Michel Pastoureau, mais c'est vraiment lui qui a ouvert au niveau international ces questions. Et donc, on a plusieurs questions qui se posent autour de l'animal, donc je vais en soulever quelques-unes. Des choses qui paraissent évidentes qui en fait ne le sont pas, ça va être par exemple quel type d'animal existe au Moyen-Âge. En fait, on n'a pas forcément les animaux qu'on a aujourd'hui 1000 ans plus tôt, par exemple le lapin que vous avez ici. Donc, ça, c'est une illustration tirée du livre de la chasse de Gaston Phébus, qui est un manuscrit du XIVe siècle. Ça, c'est la version en noir et blanc. Ouais, de Gaston Phébus. Et vous avez par exemple le lapin, pour vous illustrer la question du lapin, qui est un animal archi répandu, dont on pourrait penser qu'il a été de toute éternité en Occident. En fait, on se rend compte que le lapin, il a commencé à se diffuser dans l'Occident, surtout à partir du XIe siècle. Auparavant, il était restreint à la partie espagnole, la péninsule ibérique de l'Europe. Et il va se diffuser à partir du XIe, en lien avec une politique volontaire, notamment des seigneurs, d'introduire des lapins. Et on se passe des lapins et on les introduit autour des territoires pour chasser, en fait, pour la chasse, parce que c'est un animal qui se répand très vite. Et donc, on va avoir des lapins très rapidement dans toute l'Europe. On a pu avoir plus récemment la même chose en Australie. On a mis des lapins en Australie, maintenant il y en a partout. Avant, il y en avait d'autres. Voilà. Et c'est une catastrophe. Là, en l'occurrence, ils étaient déjà dans la péninsule ibérique, donc en fait, ils avaient leurs prédateurs et c'était moins catastrophique. Donc voilà la question du lapin, pour citer un exemple. J'en ai pris d'autres. Le petit rat, les rats noirs, on sait qu'ils ont commencé à arriver en Europe à partir du XIe siècle. Donc là aussi, c'est pas un animal qui a toujours été présent en Occident.
Comme les lapins alors.
Finalement, à peu près à la même période, mais c'est vrai. Alors c'est, disons qu'ils commencent à avoir des traces en archéozoologie ou des restes d'ossements à partir de cette période. Après, il y en avait peut-être un peu avant, mais de manière plus restreinte. Et le rat gris, qui est notre rat des villes, en fait, qu'on connaît le plus, lui arrive au XVIIIe siècle. Donc il est vraiment encore plus ancien, il vient de l'Est, et donc il arrive dans la partie ouest beaucoup plus tardivement. Ici, vous avez une image tirée d'un manuscrit du XIVe siècle aussi, qui est conservé à Paris. Et c'est ces exemples de marges de livres. Donc vous avez le texte, et puis dans les marges du livre, il y a plein de petites scènes amusantes, qu'on appelle un peu des drôleries aussi, des marginalia ou des drôleries, parce que justement c'est des scènes assez cocasses. Et donc je vous ai mis ça là parce que vous avez des petits rats en train de faire du bateau et d'arriver au bon port. Et voilà, il y a toutes sortes de scènes comme ça amusantes sur ce livre. Alors, autre animal très familier de notre époque, et qui au Moyen-Âge en tout cas va commencer à se diffuser là aussi finalement à partir après l'an 1000, c'est le chat, qui est devenu, vous savez, les chats il y en a partout. Et en fait, il est très rare pendant toute la partie du haut Moyen-Âge, donc les débuts du Moyen-Âge jusqu'à l'an 1000, on va dire. On a très peu de témoignages autour des chats. On a des témoignages autour du chat sauvage, des textes de Charlemagne qui mentionnent des chats sauvages qui sont chassés. On sait que c'est un animal qui coûte très cher, et finalement, il ne devient vraiment courant qu'à partir du XIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est encore assez récent finalement pour un animal aussi bien diffusé. Dans les textes, quelques exemples, on sait que les textes racontent la vie de Grégoire le Grand. On raconte l'histoire d'un ermite à la fin du VIe siècle qui possède une chatte et qui a une relation avec cette chatte qu'il adore et qui du coup s'est critiqué du texte. Et ça nous donne l'idée d'une relation avec un animal qui est très familier, domestique. On a en Espagne, dans la période visigothique, donc 7e siècle, 6e siècle, on a des témoignages de chats qui ont été découverts en archéologie, des restes de chats autour de maisons. Donc on voit qu'il y a quand même des chats liés dans un cadre familier, domestique, comme nous. Et finalement, on pense que la diffusion du chat, là aussi, est liée à la volonté humaine d'avoir plus de chats pour chasser les souris. Et que c'est lié aussi à l'arrivée des rats. Si vous voulez, il y a une sorte de corrélation entre les deux et on commence à avoir plus de chats parce qu'on a des rats qui sont un peu plus nombreux et le chat est un parfait prédateur. Auparavant, on utilise aussi la genette. On sait qu'on a des genettes plus ou moins domestiquées qui sont autour des greniers pour chasser les souris ou les rats. Mais le chat est un parfait chasseur parce que vous savez, un chat il va tuer même s'il n'a pas faim, même s'il a déjà chassé une souris avant, dès qu'il voit quelque chose qui bouge, il va le frapper et il va tuer. Donc on a ici un chat dans un manuscrit du XIIe siècle. C'est un chat un peu diabolique qui vient ici. C'est l'illustration d'un calendrier. Vous savez, les calendriers dans les livres manuscrits sont souvent illustrés par des images qui sont un peu toujours les mêmes. Et là, c'est le mois de janvier. En janvier, on ne fait rien de spécial dans la vie paysanne, on se chauffe au coin du feu. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de chauffer son pied. Vous voyez, il a enlevé sa chaussure. Et donc, au pied du feu, vous avez des animaux clairement domestiques, familiers. Vous avez le chien et le chat qui est en train de se lécher la patte. Ce que font très souvent les chats. On a quand même quelques exemples concernant le chat qui sont assez touchants aussi par rapport aux relations entre l'homme et l'animal. Alors celui-là, c'est un poème, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui date du 9e siècle, donc on est avant la diffusion du chat de manière plus large. C'est un poème irlandais dans lequel un religieux, un petit moine, donc c'est un poème qui se trouve dans un recueil, il y a d'autres poèmes mélangés, mais dans ce poème-là, le moine raconte sa relation avec le chat. C'est vraiment une relation étroite d'amitié entre un homme et un animal, qui est finalement, pour le Moyen-Âge, une des premières, on a cette relation très étroite entre ces deux personnages. Donc le poème s'appelle Pang Urban. En vrai, là il est en anglais, mais en vrai il est en irlandais, en gaélique, dans sa version originale. Et Pang Urban, ça signifie plus blanc que blanc. En fait, c'est un chat qui est tout blanc. Et le poème est très joli, donc ça donne Pangur blanc, le chat tout blanc. Comme je suis content, seul mais ensemble, le lettré et le chat, on a chacun notre travail à faire tous les jours. Toi, c'est la chasse, moi, c'est l'étude. Tes yeux brillants regardent le mur, moi, mes yeux faibles regardent le livre. Tu te réjouis quand tu attrapes une souris, et moi, je me réjouis quand mon esprit résout un problème. Nous sommes heureux avec notre propre art, on ne se gêne pas l'un l'autre, et ainsi nous vivons sans gêne et sans envie. C'est vraiment une relation étroite. Et il compare, ce qui est une comparaison qu'on a quand même souvent au Moyen-Âge, le fait d'attraper une idée et les animaux qui attrapent quelque chose. C'est quelque chose qu'on trouve en règle générale, mais en général, ce n'est pas un chat, ça peut être autre chose. Mais c'est assez classique comme comparaison. Et ça montre une relation étroite entre un moine irlandais et son chat, à une époque où les chats ne sont vraiment pas si fréquents au 9e siècle. Et autre exemple irlandais de la même période à peu près, pour donner un autre cas de ce haut Moyen-Âge, c'est le livre de Keats, qui est le chef-d'œuvre de l'enluminure occidentale, de mon point de vue, qui est un manuscrit qui date autour de 800, qui est conservé à Dublin, qui est une Bible, hein, c'est un évangile. Et dans cette page, qui est magnifique, que vous avez peut-être déjà vu, vous avez en fait représenté le signe du Christ, ce X, comme ça, avec ce P là. Donc c'est les lettres grecques en fait, qui et rho, qui sont les premiers mots de Christus. Donc c'est le signe, c'est comme un monogramme du Christ. C'est une manière de montrer le Christ, un peu comme la croix, c'est l'équivalent de la croix si vous voulez, mais avec des lettres. Et donc dans ce signe extrêmement sacré, divin, vous voyez, on a fait toute une représentation. D'ailleurs, il y a des évocations de la croix. Ici par exemple, vous avez la croix. Donc dans ce début d'évangile, vous avez des chats. Je reviens quand même à mes moutons, si vous dites. Ici, alors c'est ici, là, on va les voir en plus près. Donc un manuscrit irlandais fait en Irlande autour de 800, où vous avez dans une page extrêmement sacrée cette scène assez amusante. Vous avez deux petits chats avec des souris, donc des souris sur le dos et deux souris ici. Alors on s'est demandé que faisaient ces chats sur ce manuscrit, sur cette page en l'occurrence. Vous voyez qu'ici vous avez aussi une loutre, ce qui a été identifié comme une loutre, en train de manger un poisson, attraper un poisson. Et donc il y a eu une explication assez crédible autour de cette scène, notamment, je ne vais pas vous la faire en détail, parce qu'il y a d'autres petits animaux en fait cachés dans la page, mais pour rester sur celle-là, sur les chats, il se trouve que ce morceau rond ici, qui pourrait être interprété comme un morceau de fromage, parce que les souris sont en train de faire ici, finalement il y a une croix à cet endroit, donc c'est l'image de l'hostie. Donc, là aussi une image du Christ. Et vous avez des souris en train de le manger. Donc, il y a des choses qui sont en train de manger en lien avec l'Eucharistie. Ils sont en train de manger l'hostie. C'est pareil pour la loutre, qui est en train de manger un poisson. Et le poisson, c'est aussi le signe du Christ. Voilà. Donc, il y a une utilisation d'un animal commun, connu des moines, pour faire une interprétation plus élevée, du commentaire en lien avec cette scène. Mais c'est vraiment, c'est minuscule. Là, je les zoome. En vrai, le livre de Keats, il n'est pas si grand que ça. Il est un tout petit peu plus grand qu'un A4, qui fait à peu près le format de la thèse. Donc c'est tout petit. Vous imaginez, les chats, ils sont minuscules. Et donc vous allez voir, ils sont là. Les chats là. Et la loutre est ici. Et les autres animaux, c'est ici deux petits papillons. Du coup, eux sont interprétés comme une image de la résurrection ensuite et le côté céleste de l'ensemble. Donc voilà pour les chats sur leur usage et leur apparition, tous les animaux qui finalement n'existaient pas mais qui se diffusent à partir du Moyen-Âge. Donc ça, c'est des angles de recherche qui sont en train d'être abordés mais qui sont vraiment encore à creuser. C'est vraiment, je vous dis des dates, vous voyez, c'est pas très précis, on n'a pas encore précisément les raisons aussi de ces arrivées d'animaux, comment ça s'organise. Alors il y a ces questions, il y a aussi la question de l'apparence de l'animal qui peut avoir changé, c'est-à-dire l'animal a existé pendant le Moyen-Âge mais il a complètement changé d'apparence par rapport à son usage en fait. Celui qui a été très bien étudié, donc c'est par Michel Pastoureau, c'est le cochon, qui a publié en plus un petit livre dans la collection Découverte Gallimard, qui est vraiment très accessible, que je vous recommande, où il raconte comment le cochon est devenu le cochon rose qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, ça se passe surtout au XVIIIe siècle, avec l'industrialisation, le début des concours agricoles, et on commence à avoir des cochons gigantesques. Le cochon médiéval, vous voyez, c'est fait comme ça. Donc en fait, c'est une sorte de sanglier. Il est comme ça, il est très poilu, il a des grandes pattes, il a des fentes, voilà, il est comme un cochon. Et on le trouve représenté très fréquemment. Là aussi, c'est un calendrier, parce que dans les scènes du calendrier, je vous disais, il y a le mois de janvier où on se chauffe les pieds. Et il y a le mois de décembre où on représente toujours un paysan en train d'amener ses cochons dans la forêt pour ramasser des glands, pour manger des glands, ce qu'on appelle la glandée. Et donc on a très souvent dans tous les calendriers une petite scène avec un personnage et des cochons. Là c'est les régisseurs du duc de Berry, donc c'est pas n'importe quel calendrier, c'est du très haut de gamme. Donc on a une très belle scène avec plusieurs, vous voyez, fourchés ici, qui ont leur petit bâton. Normalement ils sont censés secouer les branches pour faire tomber les glands. Là les arbres sont un peu gros. Vous en avez ici aussi, et ces cochons qui sont en train de manger les glands, là vous les avez par terre représentés. Et je vous en ai mis un autre un peu plus commun, voilà, en général c'est plutôt comme ça, les calendriers c'est plus sobre. Ça c'est un manuscrit du 14e. Vous voyez, on a le paysan ici, et ça c'est, je sais pas si vous le voyez, là, c'est des sangliers qui sont très sombres, ils ressortent très sombres dans l'image. Et c'est vraiment avec ils ont la crinière hérissée, enfin, c'est. Ils sont à l'image des sangliers, et d'ailleurs ils se croisent toujours les cochons des sangliers. Donc il y a une même espèce finalement. Donc nous avons notamment le cochon qui a changé de manière spectaculaire d'apparence. Et donc ça, c'est des questions, donc, ça a été étudié pour le cochon, mais il y a tous les autres animaux domestiques où il faudrait là aussi étendre le champ de recherche. Enfin, il y a la question des rapports avec les animaux, notamment qu'est-ce qu'on mange comme animal. Et là aussi, c'est un champ à creuser. Nous avons par exemple une étude qui a été faite dans une abbaye tunisienne de la Charité sur Loire, où on a étudié en fait tout ce qui était dans les couches archéologiques, tous les ossements d'oiseaux qui étaient consommés. On sait s'ils sont consommés par rapport à la cuisson, au traitement, par des outils de découpe. Et c'est assez édifiant de voir tous les oiseaux qui sont mangés. En fait, c'est à peu près tous les oiseaux qui existent qu'on peut consommer. Je vais vous faire la liste. C'est une étude qui a été faite, pour la petite histoire, par Frédéric Audouin Rousseau, qui est aussi connu sous le nom de Fred Vargas, qui est auteur de Polar, qui est archéozoologue, médiéviste. Enfin, je ne sais pas si elle est encore, mais enfin, c'est ce qu'elle était avant de devenir célèbre. Et donc elle a fait cette étude en étudiant, en repérant les espèces d'oiseaux consommés. Et donc, quels sont les oiseaux qu'on consomme dans cette abbaye du 11e au 17e siècle? C'est un très long Moyen-Âge, on va quasiment jusqu'à la fin de l'époque moderne. Et donc, elle nous dit des poules, des oies, des canards, des sarcelles, des fuligules, des arlequettes, des faisans, des perdrix rouges, des perdrix grises, du paon, du dindon, de la caille des blés, du pigeon visé, du pigeon colombin, du pigeon rallié, la tourterelle des bois, la bécasse des bois, la bécassine des marais, la chevalier aboyeur, chevalier guignette, tout ça c'est des oiseaux liés aux rivières, le courlis cendré, la poule d'eau, le héron, la cigogne, le faucon cresserelle, vraiment tout ça, la buse variable, le vautour moine, le merle, la grive, toutes sortes de grives, je ne vous les fais pas toutes, les étourneaux, les mésanges, les bords, les mésanges charbonnières, monnettes, bleues, longue queue, rouge queue, rossignol, corneille, corbeau, chouca, gilet des chênes. Ils y sont quasiment tous en fait. Donc vous voyez qu'on a un champ de chasse assez large, plus ou moins tout ce qu'on arrive à attraper. Et quant à la chasse elle-même, on a des informations directes, mais seulement à partir du 13e et du 14e siècle, avec les traités de chasse qui existent. Et parmi les traités, on a vu le livre de Gaston Phébus tout à l'heure avec les petits lapins. Là aussi, c'est un extrait du traité de chasse de Gaston Phébus. Ce n'est pas le même exemplaire, c'est l'exemplaire en couleur qui est conservé à Paris. Et vous avez là une présentation sur la chasse aux chats sauvages. Donc, je vais vous montrer d'autres chats. En l'occurrence, ici, pas forcément consommer, mais chasser. Parce que le livre de chasse, c'est vraiment tout ce qu'on peut chasser sans forcément les manger après. C'est vraiment l'idée qu'on peut chasser toutes les créatures possibles. Avec évidemment des degrés dans la qualité de la chasse ou pas, c'est plus difficile de chasser le cerf, c'est très prestigieux, que de chasser le chat sauvage. Et nous avons un autre traité de chasse qui est remarquable pour la période. Donc il y a le livre de Gaston Phébus, et il y a le livre écrit par Frédéric de Hohenstaufen, qui est à ce moment-là en Italie, qui est un empereur du Saint-Empire romain germanique en Italie, et qui écrit un traité sur la chasse avec les oiseaux. C'est un traité de fauconnerie, c'est un des premiers au XIIIe siècle, qui apparaît, et qui est un traité remarquable dans le contenu du texte, comme celui de Gaston Phébus. C'est la même idée, parce que c'est des traités qui sont extrêmement terre-à-terre et réalistes par rapport aux animaux. Alors qu'on va voir après, en général, la littérature sur les animaux au Moyen-Âge, c'est plutôt fantaisiste et lié à autre chose que l'animal lui-même. Et là, c'est les premiers traités où finalement on s'intéresse au comportement de l'animal, à ce qu'il fait, à des choses observées par l'expérience. Et donc ce traité est remarquable par le texte, mais aussi à chaque fois par les illustrations. C'est toujours des livres qui ont été enluminés, en lien étroit avec leur auteur ou les héritiers de leur auteur, et ils surveillent précisément les images pour que l'image vraiment serve à celui qui les traite, qu'il puisse reconnaître l'espèce, reconnaître les différentes, vous voyez, la manière de chasser, la manière d'allaiter les petits, les modes de reproduction. Souvent, il y a tout qui est représenté sur une même page. Et en général, c'est plutôt fiable par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, le traité de Fauconnerie ici, vous voyez, c'est vraiment des dessins remarquables, avec les différentes espèces qui sont susceptibles d'être chassées par les différents faucons que vous avez, donc toutes sortes d'oiseaux. La représentation des faucons eux-mêmes, de comment on doit les dresser, comment on doit mettre les petits chaperons, qui y voient. Enfin, vraiment, il y a tout le détail de tout un guide pour apprendre à chasser avec les faucons. Comment les attraper, vous voyez ici, ils sont en train de grimper à un arbre pour essayer d'aller attraper les faucons dans le nid, pour les prendre quand ils sont tout jeunes, pour bien sûr les dresser. Et ici aussi, vous voyez, ils ont grimpé tout en haut de la montagne pour aller chercher leurs faucons. Donc c'est vraiment des ouvrages qui finalement sont liés à la chasse, mais qui sont finalement les premiers ouvrages proprement où on parle de l'expérience qu'on a des animaux et on le décrit le mieux. Finalement, c'est ces deux chasseurs qui sont Gaston Phébus et Frédéric de Hohenstaufen, c'est un peu des premiers naturalistes. Ils ont un côté très, très fidèle sur le comportement de l'animal, pour des raisons liées à la chasse, mais quand même, malgré tout, c'est les premiers à vraiment s'intéresser et à écrire sur eux. Donc ces traités, peut-être je vous donnerai les références s'il y en a qui veulent. La plupart des manuscrits que je montre sont en ligne sur Internet. Donc vous pouvez aller les voir, les feuilleter. Les bibliothèques mettent en ligne maintenant leurs livres, donc surtout les livres comme ça, exceptionnels. Celui-là, il est au Vatican, et la bibliothèque du Vatican a fait un programme de numérisation exceptionnel, où vraiment vous pouvez trouver très facilement les livres. Donc voilà les différents aspects liés à cet animal dans la vie quotidienne. Il y a un autre aspect qui est intéressant et qui mérite encore aussi d'être creusé, c'est celui des ménageries. C'est-à-dire qu'il y a aussi un animal qui est utilisé pour paraître, qui va être un animal conservé dans des zoos, des grandes réserves, par des rois ou par des princes qui voient une manière d'affirmer leur statut, leur prestige. Donc la question des ménageries, c'est pas lié au Moyen-Âge. Dès l'Antiquité, on a des ménageries exceptionnelles. Les empereurs conservent des ménageries avec énormément d'animaux qui vont éventuellement faire s'affronter dans les arènes. Donc ça se poursuit pendant le Moyen-Âge. Charlemagne, on sait qu'il avait une belle ménagerie avec notamment un éléphant envoyé par le calife de Bagdad, parce que du coup on se fait des cadeaux diplomatiques en fait par des animaux, ce qui se fait encore d'ailleurs avec les bambardas, exactement, c'est la diplomatie en lien avec les animaux. On sait que Charlemagne avait aussi des singes, il y avait un lion. Vous voyez, on donne des éléphants, des ours, des lions, on donne des choses un peu prestigieuses liées au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, c'est des animaux qui ont une bonne réputation. Et donc notamment les éléphants, alors pour le XIIIe siècle, c'est un éléphant en Angleterre, qui a été possédé par Henri III d'Angleterre. Alors Henri III, il avait déjà reçu un ours blanc du roi de Norvège. Le pauvre ours blanc n'avait pas duré très longtemps, mais il avait fait sensation, on raconte son arrivée dans les chroniques. Et donc on lui offre ensuite un éléphant. Alors cet éléphant ne lui est pas offert directement, en fait au départ il est offert à Saint-Louis, donc le roi de France, par le sultan d'Égypte, donc en 1254, après sa croisade ratée. Et Saint-Louis ne veut pas d'éléphant, et donc il le donne au roi d'Angleterre, qui est son parent. Et donc l'éléphant arrive à Londres. Et cet éléphant, on le connaît notamment grâce à cet ouvrage, qui a été écrit par Mathieu Paris, qui est un proche du roi Henri d'Angleterre, qui a la particularité d'écrire des chroniques de ce qui se passe de son temps. Mais non seulement il les écrit, mais en plus il les enlumine, c'est lui qui fait les peintures. Donc c'est vraiment des livres où c'est pas forcément lui qui le copie directement, il va éventuellement l'éditer, mais c'est lui qui fait la peinture, et il le dit lui-même, se présente comme auteur et enlumineur. Et donc ce Mathieu Paris, il a raconté l'histoire de l'éléphant, et il en a fait un croquis. Donc vous l'avez dit, cet éléphant, il nous raconte que l'éléphant, tous les jours, avait son bain quotidien dans la Tamise, qu'il était amené par son cornac, maître Henri de Florence, c'est celui que vous avez là. Ici, vous voyez le maître de la bête. Et il décrit la bête, Matthew Paris, il raconte sa couleur, qu'elle a des pattes comme des piliers, qu'elle est toute grise, qu'elle est assez spectaculaire. Et il en donne un dessin où il nous dit que c'est un dessin portraituré à vif, ce qui est une manière de dire au Moyen-Âge qu'on l'a fait en ayant un modèle sous les yeux. Et c'est assez exceptionnel, finalement, c'est notre premier animal, puisque là, on est, cette chronique, elle date de 1255, du coup, peu de temps après qu'il arrive, on est autour de ça, 1255-1258. C'est donc milieu du XIIIe siècle, c'est le premier animal qu'on connaisse représenté directement. C'est le premier portrait d'un vrai animal, si vous voulez, et qui en plus est extrêmement fidèle à ce qu'on peut savoir d'un éléphant. J'aurais dû vous mettre des images d'éléphants d'autres manuscrits, mais vous en avez peut-être déjà vu, des fois, des éléphants au Moyen-Âge, c'est... Des fois, ils ont la trompe sur la tête, enfin, c'est n'importe quoi, c'est rigolo, ils ne savent pas en fait. Celui-là, vraiment, il a vu, et il en a fait un dessin assez fidèle, avec, vous voyez, la bosse derrière, enfin, tout est assez proche de ce qu'on peut attendre d'un vrai éléphant. Même les pattes et tout, tout est fidèlement reproduit. Et donc, c'est assez exceptionnel, c'est notre premier animal considéré pour lui-même, où finalement, on parle de lui, on dit d'où il vient, c'est lui qui est regardé, c'est lui qu'on représente. Donc, ça, c'est exceptionnel, la plupart du temps, l'animal est plus utilisé pour son rôle symbolique, c'est ce qu'on verra. Voilà, donc nous avons plusieurs questions pour les animaux, des questions historiques, vous voyez, où on ne sait encore pas grand-chose sur l'énergie, quand les animaux apparaissent, quelles apparences ils avaient, il y a encore énormément de recherches possibles à faire. Alors après ce premier panorama un peu des problématiques qui existent sur l'animal, je voudrais maintenant vous parler de ce qu'on sait de l'animal à partir des textes. Parce que ça, en l'occurrence, ça a quand même été le champ le mieux étudié. Les historiens s'intéressaient d'abord aux textes, et on cherchait à savoir comment l'animal était représenté dans les textes. Du coup, forcément, c'est un point de vue des clercs, des religieux et de l'élite, de ceux qui écrivent. Donc, il faut garder ça à l'esprit, je vous donne un point de vue qui est celui de ceux qui ont de quoi écrire et de penser l'animal. Alors que ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus au quotidien avec les animaux, ce n'est pas les paysans. Mais c'est finalement ceux qui sont le plus documentés. Donc aujourd'hui, on utilise le terme d'animal, qui vient d'anima, qui veut dire l'âme, en latin, donc c'est plutôt positif en fait, notre mot pour utiliser l'animal. Le mot existe au Moyen-Âge, on trouve aussi le mot de bête, bestia, qui lui finalement est réservé à toutes les bêtes sauvages, de manière générale, et on peut trouver le mot d'animalia domestica pour les animaux, soit qui sont comme nos animaux domestiques à nous, la vache, enfin les animaux qu'on exploite en quelque sorte, mais aussi pour ceux qui sont près de nous. Ça peut être... la pie, le renard, la souris, tous ceux qui sont autour de la maison, en fait, qui ne sont pas forcément domestiqués dans notre sens actuel, ont ce nom-là. Alors, il y a deux grands courants généraux de pensée autour de l'animal pendant le Moyen-Âge, et qui finalement persistent encore aujourd'hui, je pense. La première tendance, qui est la plus majoritaire, c'est celle qui suit la Bible, en fait, qui dit que l'homme est créé, les animaux sont créés au service de l'homme. Donc, si vous avez l'Ancien Testament, par exemple, nous avons dans la Genèse, juste après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Donc, il y a l'idée de soumettre, donc on est supérieur aux animaux. « Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rentrent sur la terre. » C'est un programme assez clair. Et ensuite, nous avons le moment où Dieu dit à Adam de nommer tous les animaux. Donc, c'est vraiment Adam qui donne son nom à chaque animal, donc qui leur donne en fait leur raison d'exister. Ils sont inférieurs à la création de l'homme. Donc c'est ce que vous avez ici, en fait, Adam en train de nommer les animaux. Et lui, il a un petit rouleau comme ça, et donc il est en train de pointer, et il va donner son nom à tous ceux qui sont présents. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a certains noms qui ont été écrits sur les animaux, vous voyez ici. Voilà, donc on a mis les noms sur les créatures, donc on a des animaux courants, on a les curieux ici, on a vraiment, ils ont mis la voix représentée dans le milieu, là, tout le panel des créatures, vous avez un lion, je vous parlais de l'éléphant qui est représenté de manière fantaisiste, celui-ci a quand même une oreille chauve-fleur, qui n'est pas très réaliste, même si le reste de l'animal est assez proche, mais l'oreille est très décorative. Ce qui est amusant dans cette image aussi, c'est le chat, je ne sais pas si vous voyez ici, en train de se lécher derrière comme font tous les chats, donc qui finalement traduit une observation de l'artiste assez étonnante sur cet animal par rapport aux autres qui ont moins d'effets, qui ont des poses beaucoup plus statiques. Celui-ci est vraiment dans une pose de chat assez amusante. Donc vous avez les différentes catégories, vous voyez les oiseaux en haut, les quadrupèdes ici, je vais essayer de mettre les importants, vous voyez c'est toujours un peu les mêmes, le lion et l'éléphant, c'est quand même des animaux
une certaine prestance et qu'on met au milieu. Et le singe, il est en train de manger un petit quelque chose aussi, ouais. Et ça, c'est une image, c'est très quasiment systématique. Dès qu'on fait un singe, on fait en train de manger.
Et derrière le singe, entre le.
Alors ça, je ne sais pas quelle est cette tête. J'avoue, celle-là, là, elle n'est pas nette. Ouais. Celle-là aussi, peut-être une sorte de loup. Mais tant que l'animal n'a pas des fois, pour reconnaître l'animal, il faut juste avoir un petit élément de son physique qui va permettre de le reconnaître. Ça va être l'éléphant, la trompe pour l'éléphant, la crinière pour le lion, encore que là il n'en est pas. Et donc le singe, souvent, c'est une petite créature croquembillée en train de manger quelque chose, un fruit, quelque chose de rouge. C'est vraiment un cliché en fait dans la manière de le représenter, il est quasiment toujours comme ça. Donc nous avons ce courant-là lié à l'animal. Donc dans ce courant-là, l'animal est par essence inférieur à l'homme, puisque l'homme est à l'image de Dieu, alors que les animaux sont faits pour servir à l'homme. Et donc l'animal est utilisé comme un repoussoir par rapport à l'homme. C'est très clair dans l'Ancien Testament en particulier, avec notamment la question de l'idolâtrie. L'idolâtrie avec le veau d'or, enfin toutes ces représentations d'animaux qui peuvent être un détournement de la bonne de ce qu'il faut faire. Et nous avons quand même avec le christianisme, avec le Nouveau Testament, une petite atténuation de ce refus de l'animal. Puisque dans le christianisme, il y a quelques animaux qui sont utilisés comme symboles divins, mais il y en a que quelques, donc c'est quand même assez contrôlé. Donc vous avez la colombe pour le Saint-Esprit, vous avez l'agneau parce qu'il est diffusé dans les textes pour le Christ, et vous avez les évangélistes qui ont leurs symboles, qui sont en partie animaliers, vous savez, avec l'aigle pour Saint-Marc, le bœuf pour Saint-Luc, etc. Donc, mais ça reste un panel extrêmement réduit d'animaux qu'on peut utiliser à lien avec le divin. Il y a toujours cette crainte d'aller vers l'idolâtrie dans l'utilisation des animaux. Donc c'est une distinction qui est propre à l'héritage juif de l'Ancien Testament, qui est repris par le christianisme. Par exemple, dans l'islam, il y a la possibilité d'avoir des saints qui des fois se transforment en animaux, en lions éventuellement, et qui ensuite redeviennent des saints. Ça, dans le christianisme, c'est impossible. On n'a pas cette relation aussi étroite avec l'animal. C'est vraiment lié à l'idée de l'incarnation, puisque Dieu est devenu un homme. Si les hommes se mettent à devenir des animaux, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est bien ça. Alors il y a quelques petits échos de ce qui se fait, parce que ça c'est la théorie finalement, les traits, la théorie de ceux qui perdent l'église, de ce qu'ils nous disent de l'animal, mais dans la réalité, on a quelquefois des petits échos qui arrivent à percer de ce qui se passe dans la pratique, parce que l'animal est partout quand même, donc est-ce qu'on arrive vraiment à ne pas l'avoir en lien avec la religion? Visiblement des fois si, il y a cette histoire du saint lévrier, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai mis le livre en question. Donc c'est un des cas qui a réussi à arriver jusqu'à nous parce qu'il y a un inquisiteur qui a travaillé dessus, donc on a ces registres d'inquisition, et qui est une pratique populaire donc, qui avait lieu au XIIIe siècle dans l'Ain, où cet inquisiteur nous raconte l'histoire de ce chien, donc un lévrier, qui était considéré comme un saint et à quel on attribuait des miracles. L'histoire est assez simple. En fait, c'était un chien fidèle à son maître et qui gardait le berceau dans lequel se trouvait l'enfant d'un seigneur. Et un jour, un serpent arrive et va attaquer l'enfant et le chien défend l'enfant en tuant le serpent. Sur ces entrefaites, le maître arrive et il voit le berceau, le sang, le chien. Donc il pense que le chien a tué l'enfant et il tue son chien.
Oh.
Voilà, injuste. Et donc, il se rend compte de son erreur assez vite, puisqu'il voit que l'enfant va bien, et donc il est désolé, mais il enterre son chien. Et petit à petit, il se crée un pèlerinage autour de ce tombeau du chien, et notamment qui fait des miracles autour des enfants. Il va soigner les enfants, donc les femmes qui ont des enfants malades vont mettre des linges autour des arbres. Enfin, il y a tout un rite autour de ce saint qui a été étudié par Jean-Claude Schmitt, avec tous les héritages aussi qu'il peut y avoir autour de ça dans la culture folklorique. Enfin, là, je vous le fais en très simple, mais l'anthropologie va donner énormément d'explications autour de ça. Mais malgré tout, c'est un des rares exemples d'un animal considéré comme un saint dans le christianisme. Donc ça a pu exister, mais en souterrain, et de toute façon, un inquisiteur a mis fin à cette pratique. Il le raconte, il a déterré les ossements, il les a brûlés, il a fait tout pour empêcher qu'on continue à honorer ce saint chien. Donc ça, c'est le premier courant, vous voyez, plutôt contre les animaux, en tout cas qui crée vraiment une barrière étanche entre l'homme et l'animal. Et le deuxième courant, c'est un courant qui au contraire va faire une sorte de communauté du vivant,
qui est plus lié à Aristote. Alors Aristote, c'est un philosophe grec, qui n'est pas chrétien, hein, qui est au 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui n'est découvert en Occident au Moyen-Âge qu'à partir du 13e siècle. Donc c'est à partir du 13e siècle qu'on va avoir ce courant notamment qui va se développer. Il est découvert par l'intermédiaire de traducteurs en arabe, donc il est écrit en grec, Aristote, il est traduit en arabe et ensuite il est traduit de l'arabe vers le latin à partir du 13e. C'est toute une étape. Et dès qu'il est découvert, il va vraiment modifier toute la pensée occidentale. Il a une manière de penser qui est très différente. Et donc notamment, Aristote a écrit un ouvrage qui s'appelait De Anima, donc sur les animaux, dans lequel il mettait en avant l'idée d'une communauté de la création, le fait qu'on était tous une forme d'égalité entre les hommes et les animaux. Et il y a aussi une autre influence chrétienne qui justifie cette pensée, parce qu'Aristote est quand même un païen, même s'il est reconnu, c'est saint Paul, qui dans plusieurs passages du Nouveau Testament a ce genre de pensée. Par exemple, il dit dans les Épîtres aux Romains, donc saint Paul, « La création sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc comme il dit « la création », certains ont commencé à penser, à partir du XIIIe, que ça pouvait englober finalement tout le monde. Et donc on se pose des questions sur ces aspects. On dit en même temps Jésus est né dans une étable, donc peut-être il y a un lien avec les animaux, et on construit toute une pensée pour rétablir un peu le lien entre hommes et animaux. Donc c'est à partir du XIIIe hein, seulement. Et donc c'est au moment du XIIIe qu'on commence à se poser des questions sur où vont les animaux après leur mort, est-ce qu'il faut les juger comme des hommes, est-ce qu'il faut les faire travailler le dimanche ou pas, quel est leur statut en fait par rapport à l'homme, puisqu'ils sont dans la création. Donc on se pose ce genre de questions. La manifestation la plus connue de ce changement d'aspect par rapport à l'animal, c'est saint François, qui, donc au XIIIe siècle, saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains, qui, dans les textes qui racontent sa vie, on met souvent l'accent sur sa relation aux animaux et le fait qu'il prend soin des plus petits animaux qui soient. Donc il les inclut dans la création et on met ça en avant. Par exemple, on raconte dans La Légende Dorée, qui est ce texte qui raconte les vies des saints, qu'il ôtait les vers de dessus un chemin de peur qu'ils ne puissent s'écraser sous les pieds des passants, de crainte que les abeilles ne mourussent dans la ruche lors des gelées d'hiver, il leur faisait apporter du miel et les meilleurs vins qu'il pouvait trouver. Et il appelait tous les animaux ses frères. Il y a cette idée, bon, c'est en lien avec l'idée de la pauvreté aussi, il est finalement très humble parce que même les petits animaux il les a plus, mais il y a quand même un autre rapport à l'animal, c'est plus un animal purement utilisé. Et là c'est une image d'Assise où vous voyez saint François dans un épisode où il est en train de prêcher aux oiseaux. Donc il est en train de prêcher, de convaincre, de parler de Dieu à des petits oiseaux qui sont comme ça, c'est fini. Voilà, donc voilà pour les deux courants de pensée généraux du Moyen-Âge, avec quand même une prédominance pour le premier, malgré tout ça va quand même être l'opposition entre homme et animal, mais le deuxième existe. Voilà, c'était pour vous dire que c'était possible, mais il y avait quand même cette pensée qui existait. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui existe en termes de traités vraiment zoologiques. On a vu les deux livres de chasse du XIIIe et XIVe siècle. Qu'est-ce qui se fait en termes de vraiment traités ou de livres sur la zoologie ou sur d'encyclopédie sur le Moyen-Âge et de quoi est-ce qu'on parle par rapport aux livres? Donc cette image, je ne vous en parle pas. C'est trop compliqué. Donc, disons que c'est moins important que le reste. Quels sont les classements utilisés donc, pour classer les animaux dans ces encyclopédies? Ça va être essentiellement leur apparence extérieure, donc ça on a gardé ce type de classement finalement. Et notamment s'ils ont des pattes ou pas, s'ils volent, enfin leur milieu de vie. S'ils sont dans leur... On va souvent classer ensemble ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur terre et ceux qui sont sur mer, ça paraît assez évident. Des fois les classements sont... Déjà il n'y a pas de classement rigoureux, c'est surtout ça l'idée, c'est que selon les encyclopédistes, on peut avoir toutes sortes de classements. Des fois ils mettent ensemble tout ce qui est petit, parce que c'est un peu les... On appelle ça les vers. C'est un peu les insectes, et des fois les taupes elles sont rangées avec les vers aussi, parce que c'est un peu des trucs petits, on ne voit pas souvent, c'est très vague. Des fois les abeilles sont rangées avec les oiseaux, parce que c'est des insectes, mais elles ont quand même un statut différent, elles sont quand même positives, bon, elles font du miel, voilà. Donc déjà il faut savoir que les classements sont assez libres, plutôt liés à leur, voilà, au lieu de vie des animaux, avec souvent une hiérarchie au sein du classement par la taille, ce qu'on fait encore... dans les livres pour enfants, enfin, donc le lion est déjà le roi des animaux, en général le roi des poissons, mais c'est le dauphin. Évidemment, on ne fait pas de distinction sur mammifère ou pas mammifère, tout ça n'est pas du tout utilisé. On distingue les oiseaux nocturnes et les oiseaux diurnes, ça c'est très important, ceux qui vivent la nuit, et même les animaux en général, ceux qui sont la nuit et ceux qui sont le jour ont un statut très différent. De manière générale, tous ceux qui sont la nuit ne sont pas clairs, parce qu'ils refusent la lumière divine. Donc ils sont à côté, et en général ils ont une très mauvaise réputation, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans ce classement, une règle aussi qui reste, qui persiste dans tous les cas, c'est que en général, le lion est le roi des animaux, ça reste. Et aussi, mais il peut parfois être négatif ou positif, il n'est pas toujours positif, on le verra. Et au niveau des animaux les plus négatifs, c'est toujours le cas, c'est le dragon. C'est le serpent, et le plus grand des serpents, c'est le dragon. Donc ça, le dragon, c'est le pire de tous, ça reste dans tous les cas. Mais au-delà de ça, c'est très fluctuant. Je vous cite le dragon, vous voyez bien que aussi, il faut quand même le préciser par rapport à nos classements à nous, les animaux fantastiques, bien sûr, sont inclus dans ces encyclopédies. Il n'y a pas de distinction entre animal réel ou animal fantastique. Et à juste titre, puisque le monde n'est pas encore entièrement découvert, ils disent que c'est des animaux qui peuvent peut-être exister. Donc ils les classent avec le reste. Et donc on va avoir des dragons, des licornes, et aussi tous les animaux hybrides qui sont entre l'humain et l'homme, comme les sirènes, les centaures, tout cet héritage antique, tout ce qui existe d'avant, on les inclut dans ces encyclopédies. On les met au même titre que le reste. Donc voilà, on va citer juste quelques traités zoologiques qui ont marqué le Moyen-Âge. Donc je vous ai dit, il y a Aristote qui est dans l'Antiquité, mais finalement lui, son traité n'est découvert qu'à partir du XIIIe siècle. Donc c'est pas le premier qui va être utilisé. Un des premiers en fait traités qui vient de l'Antiquité et qui est repris pendant tout le Moyen-Âge, malheureusement plus qu'Aristote, c'est le traité de Pline l'Ancien, qui s'appelle l'Histoire naturelle, donc qui ne parle pas que des animaux, il parle de tout ce qui est... Enfin, c'est vraiment une encyclopédie sur les plantes, la chimie, la physique, toutes sortes de choses, la géographie. Et donc Pline l'Ancien, il écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, et son Histoire naturelle, c'est l'autorité concernant tout ce qu'on sait sur le monde qui nous entoure pendant tout le Moyen-Âge. Il est copié extrêmement, et il est repris et il est cité à profusion. Or, son Histoire naturelle, c'est un petit peu fantaisiste par moment. En fait, Pline, il fait une compilation de tout ce qu'il a entendu. Donc, il y a des choses très étranges qui sont reprises. Il reprend des histoires qu'on lui raconte, des anecdotes, des fables. Enfin, il reprend tout, il ajoute. C'est vraiment l'idée de compiler le plus possible. Et c'est lui qui a vraiment... qui reprend des choses dans l'Histoire naturelle et qui vont avoir des échos encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, des choses qu'on va trouver dans Pline l'Ancien, qui sont sûrement dans le courant, dans les pensées, dans l'Antiquité, sont passées par le Moyen-Âge, puisqu'on copie tous ces textes, et sont encore jusqu'à nous aujourd'hui, enfin, l'histoire des éléphants qui ont la mémoire, les larmes de crocodile, enfin, toutes ces pensées comme ça qui existaient déjà dans l'Antiquité sont reprises grâce à Pline et répercutées comme ça pendant tout jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a vraiment il a une importance cruciale, ce Pline l'Ancien, avec son Histoire naturelle. C'est lui qui est la source à chaque fois. Alors, pour citer un encyclopédiste médiéval cette fois, il y a Isidore de Séville, qui est le premier grand encyclopédiste du Moyen-Âge, qui a écrit un texte qui s'appelle Les Étymologies, et qui les écrit au 7e siècle. Donc c'est un évêque de Séville, d'où son nom Isidore de Séville, et il écrit dans la péninsule ibérique qui est visigothique à ce moment-là, et qui fait une encyclopédie universelle. Donc l'idée, c'est pas, il ne parle pas lui non plus que des animaux, il parle du tout. Hein. Et comme son titre l'indique, les étymologies, l'idée c'est que les noms des choses expliquent ce qu'elles sont. Vous voyez l'idée? Donc l'idée c'est que le nom est signifiant, le nom c'est pas juste quelque chose, une convention, ça donne une idée de ce qui est vraiment... puisque c'est Adam qui a donné les noms, donc c'est pas des noms en l'air. Donc il veut leur donner une explication, et donc c'est très amusant les étymologies. Il va parler de 220 animaux, et il nous donne plusieurs choses qu'il reprend essentiellement de Pline l'Ancien, et ensuite il invente un peu en donnant des explications étymologiques. Donc par exemple, pour vous donner une idée de la pensée, le héron, ça se dit Ardea en latin, A-R-D-E-A. Ça ressemble un peu à Ardua, A-R-D-U-A, qui est le féminin de Ardous, A-R-D-U-U-S. Donc Ardea, Ardous, Ardous, ça veut dire très haut, élevé, donc ça ressemble un peu à Ardea. Donc il dit, le héron vole en altitude, d'où son nom. Vous voyez, l'idée, c'est tout bête, c'est des petits liens étymologiques. Donc, parce qu'il a peur de la pluie, il se réfugie au-dessus des nuages. Et il ajoute, lorsque le héron vole très haut, on va s'attendre à avoir du mauvais temps. Donc c'est une espèce d'encyclopédie comme ça, assez amusante. Il y a des petites idées étymologiques, et puis un petit peu des petits conseils. Enfin voilà, on reprend des choses autour de lui, et puis des choses aussi de l'Antiquité qu'il répète. D'autres exemples, le lièvre, c'est l'épouse en latin, L-E-P-U-S. Il le rapproche d'un mot qu'il va inventer en collant deux adjectifs, en disant l'épouse, le pied léger. Donc l'épouse, l'épouse, ça se ressemble, c'est parce que le lièvre a le pied léger. Il cherche ça. Le dernier, parce qu'il est vraiment joli, c'est les oiseaux. Et les oiseaux en latin, c'est avis, A-V-I-S. Et le A peut être privatif. Vous savez, quand on met un A entre un mot, c'est qu'on enlève ce qu'il y a après. Et donc il dit, c'est avis parce que les chemins, parce que les oiseaux ne prennent pas les chemins. Donc c'est A, parce que via en latin, c'est les chemins. Donc c'est avis, ils ne marchent pas sur les chemins, donc ce sont des oiseaux. Voilà, c'est des petits jeux de mots, des jeux étymologiques qui sont très typiques d'Isidore de Séville et qui vont marquer Isidore de Séville. C'est... Il y a Pline l'Ancien qui est copié pendant son âge, Isidore de Séville aussi, c'est vraiment une référence absolue. Donc vous voyez un peu, le regard sur les animaux n'est pas spécialement attaché à leur mode de vie, à ce qu'ils peuvent faire en vrai, c'est purement c'est un jeu sur les mots. Donc là, c'est un des premiers exemplaires des étymologies qu'on connaisse, qui date du 9e siècle. Et c'est pas un livre enluminé, vous voyez, ça n'appelle pas le décor, il n'y a pas un petit décor, il y a juste la première lettre du chapitre concernant la chose ou l'animal, et après on a le reste, mais il n'y a pas de décor. Alors, un autre encyclopédiste, c'est Rabanmaur, Raban.Maur, qui est un homme de la Renaissance carolingienne, et qui a écrit lui aussi une encyclopédie qui va être copiée pendant tout le Moyen-Âge, qui reprend un peu le classement d'Isidore. Lui, il ne fait que 135 animaux. Et lui, par exemple, il prend un classement très lié à l'homme, très anthropocentrique. Par exemple, il parle de l'homme, après il parle des hommes hybrides, donc des sirènes, des centaures, parce que c'est un petit peu homme, moitié bête, donc il est comme ça. Après, il parle des animaux qui entourent l'homme, genre la vache, tous les animaux liés au troupeau, à l'agriculture. Puis les bêtes sauvages, et ensuite, les derniers, c'est les serpents, les vers, toutes les choses très éloignées, donc très éloignées de l'homme. Et dans ses inventaires, c'est intéressant parce qu'il met souvent en parallèle, il parle aussi des animaux aquatiques, et il fait quelque chose qui est encore pratiqué, c'est-à-dire qu'il décrit les animaux aquatiques comme si c'était un miroir de ce qu'il y a sur Terre. Les animaux qu'il y a dans la mer sont un miroir de ce qu'on trouve sur Terre. Et donc ici, vous avez des cochons de mer, vous voyez, qui ont des têtes de cochons, plus ou moins, et qui ont des pattes de cochons, mais qui sont des poissons. Et on utilise encore, on a toujours les loups de mer, je ne sais pas si on trouve le mulet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le lièvre de mer, le cheval marin, enfin, c'est une pratique qui, en fait, dans le langage courant, en tout cas, a été préservée. Donc voilà, quelques encyclopédies savantes. Là, l'image qui, ici, c'est pas une image du texte de Rabanmaur, hein, c'est une image d'un bestiaire, proprement dit, dont on va parler tout de suite. Ces encyclopédies, elles sont, comme on l'a vu là, c'est des textes qui ne sont pas avec de grandes enluminures, c'est plutôt des textes savants sur des encyclopédies, c'est pas vraiment des bestiaires. Maintenant, on va parler du bestiaire proprement dit, qui est le best-seller un peu à partir du XIIIe siècle. On va trouver énormément de livres enluminés qui sont vraiment des bestiaires. Alors, le bestiaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, le vrai nom du bestiaire, quand même, est-ce que je l'ai écrit ? Ah, je vous montre tout, je spoil. Attendez. Je ne l'ai pas écrit. Si, je l'ai écrit, c'est en bas. Le vrai nom du bestiaire, du coup, vous avez peut-être la table, c'est Physiologus, le nom du texte qui est utilisé pour faire bestiaire. Physiologus, en fait, c'est un texte qui se développe au Moyen-Âge, mais qui vient d'Antiquité, encore. On reprend un modèle antique, qui a probablement été écrit en Égypte, au 2e siècle après Jésus-Christ. Et c'est important, Égypte, parce que vous allez voir, les animaux qui sont au cœur du bestiaire sont des animaux liés justement à l'Égypte. On va avoir des crocodiles, des éléphants, des lions, des panthères. Et c'est ce bestiaire-là qui va migrer vers l'Occident. Donc, ce texte a été écrit d'abord en grec, en Égypte, autour du 2e siècle après Jésus-Christ. Physiologus, en fait, ça veut dire le naturaliste, donc celui qui connaît les animaux, les plantes, le naturaliste. Et c'est un texte anonyme où seulement on nous dit, à chaque fois, le naturaliste dit que, tac, 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 et on écrit. D'où ce nom de naturaliste. C'est un peu l'auteur, en fait. Donc le texte est en grec, il va être rapidement traduit en latin à partir du 4e siècle, et ensuite il va être complété pendant tout le Moyen-Âge. Et à partir du XIIIe siècle notamment, traduit en langue vernaculaire, en français en France, en anglais en Angleterre, les langues parlées. Et c'est là qu'il va connaître son principal succès, ça va devenir un livre, finalement un manuel de morale, parce qu'on va voir que c'est surtout de la morale en France, c'est pas tant sur les animaux, pour notamment les seigneurs et les princes qui ne parlent pas latin, mais qui ont envie de savoir quoi penser des animaux. Donc comment ça marche le physiologus, ou le bestiaire, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler ensuite. Donc, le physiologue, le naturaliste qui parle, considère les animaux sur trois plans à chaque fois. Il considère l'animal sur le plan réel, il faut dire réel avec des guillemets, parce que vous allez voir, c'est des réels un peu approximatifs. Disons ce qu'on pense que l'animal fait. Vous allez voir, c'est pas toujours. Donc il y a ce premier plan, ensuite sur le plan allégorique,
De cette pratique de l'animal, il tire une allégorie. Et ensuite, à la fin, il tire une morale de cette pratique de l'animal. Donc le but premier en fait, du bestiaire, c'est de faire de la morale à partir d'une petite histoire avec des animaux. C'est ça. Donc ce ne sont pas des livres qui parlent de la vraie observation des animaux ou qui vont représenter des animaux de manière réaliste, comme le sont les traités de chasse qu'on a vu, qui sont finalement assez peu nombreux. Et pourtant, c'est ceux-là qui ont le plus de succès. Donc, on va y trouver, dans les premiers en tout cas, en général, assez peu d'animaux, une trentaine. L'idée, c'est pas de représenter tous les animaux. Et on trouve des animaux propres à l'origine du texte. Donc, il y a l'Égypte, je vous ai dit, la panthère, le lion, c'est vraiment les animaux principaux de ce texte. On a même dans le bestiaire, les premiers, on a aussi la perle marine, la perle des huîtres. On a un arbre aussi, mais la plupart du temps, c'est des animaux, essentiellement. Alors le premier que je vous mets ici, c'est la première copie qu'on connaisse en latin, qui a été conservée, qui date de 825, qui a été fait à Reims, qui est un manuscrit carolingien, où vous avez donc, le texte ici, et dans la marge, une représentation, cette fois vraiment de la scène liée au texte. Donc là, ça illustre la question du serpent. On parle du serpent. Alors vous allez voir comment ça marche, le bestiaire. Petit extrait. Le Seigneur a dit. Non, ça commence avec. Ça, on va pas faire. Ça commence avec une petite citation biblique pour vous mettre un peu dans l'esprit. Ensuite, il va parler des différentes natures du serpent. Donc, c'est ce qui est considéré comme la réalité de ce que fait le serpent. Donc, voilà une des natures. Je vous dis la quatrième nature du serpent. Lorsqu'un homme s'approche du serpent avec l'intention de le tuer, il offre tout son corps à la mort, mais il cache et préserve sa tête. Donc, ça, c'est soi-disant ce que fait le serpent. Je ne pense pas que ça soit vrai, je ne sais pas. Jamais vu le serpent, souvent c'est pas très vrai une nature, mais voilà. Donc ça c'est la nature du serpent, c'est ce qui est représenté, vous voyez un homme en train de tuer un serpent avec une lance. Ensuite l'interprétation c'est, nous aussi nous devons agir ainsi. Livrons notre corps à la mort, mais préservons notre tête. Autrement dit, faisons-le sans renier le Christ, comme ont fait les plus courageux des martyrs, car la tête de tout homme c'est le Christ, ainsi que l'écrit le sublime saint Paul. Et vous avez une dernière citation biblique à la fin. Donc vous voyez l'idée. C'est pas du tout le but de parler du but, c'est pas de parler du serpent. Le but, c'est de parler d'un texte, de citer des textes bibliques, du coup ça permet de les apprendre, des textes essentiels, et puis d'avoir un comportement moral associé. On se souvient du serpent, on se souvient de ce qu'il faut faire, de la tête. Il y a un aspect très mnémotechnique dans ces bestiaires à chaque fois. Il y a une image, un animal, donc c'est un élément amusant à retenir. Je pense que l'histoire du serpent, vous allez vous en rappeler, par exemple demain, encore peut-être après-demain, alors que celui qui a écrit. Le carolingien a écrit l'encyclopédie avant mort et je pense qu'il va flotter un peu mieux. Il ne va pas rester alors que là, clairement, c'est fait pour être remémoré et pour se souvenir de principes. Donc voilà lequel du serpent. Donc c'est toujours un peu la même construction avec une description du serpent ou de l'animal en question, une petite citation biblique et puis une explication morale, allégorique. Donc je vous en ai fait un petit panel de ces créatures. L'idée étant qu'à chaque fois, l'illustration permet de décrire les différentes natures de l'animal. Il peut y avoir plusieurs par animal, en fait, à chaque fois, pour se souvenir de tout ce qu'il faut se souvenir. Donc, en tout cas, vous voyez bien que les animaux n'ont aucune valeur en tant qu'animal, une valeur objective. Leur seul intérêt, c'est de pouvoir faire une démonstration religieuse et morale. C'est vraiment et c'est comme ça que l'animal est essentiellement traité. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Le lion. Parce que le lion, il est dans tous les bestiaires. À chaque fois, c'est la pièce maîtresse, il est toujours. Donc le lion, il est souvent en premier, en plus, il débute les bestiaires. Et c'est, pendant tout le Moyen-Âge, un symbole du Christ. Parfois, pas toujours, il peut être parfois négatif, mais c'est quand même associé à l'image du Christ, de temps en temps. Donc voilà comment ce que nous dit le bestiaire. Donc le bestiaire, le physiologus, dit que le lion a trois natures. Donc le naturaliste dit que le lion a trois natures. Voici sa première nature. Donc vous avez découvert des choses sur le lion. Lorsqu'il se promène et marche dans la montagne, l'odeur des chasseurs lui parvient et il efface ses traces avec sa queue pour que les chasseurs ne découvrent pas sa tanière et ne se saisissent pas de lui. Donc là, c'est ce qui est représenté dans ce manuscrit de la fin du XIIIe. Vous avez donc sur un fond abstrait, typique de ces manuscrits du XIIIe, un chasseur avec sa corne de chasseur, sa lance, et donc une forêt. Voilà, une forêt européenne finalement, et un lion qui se promène dans cette forêt, qui est reconnaissable à sa crinière, enfin il a tous ses attributs, sa longue queue, et cette longue queue, voyez, on insiste dessus parce que ça illustre l'effacage des traces. Il est en train d'effacer ses traces avec sa queue. Donc, quelle est l'explication qu'il va y avoir là-dessus? Vous allez voir, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour le moment. Tel est aussi notre Seigneur, le lion spirituel, venant du Père invisible, il a masqué ses traces, c'est-à-dire sa divinité, en prenant la forme d'un homme, donc il a dissimulé sa divinité. Le lion incarne donc, par cette nature, le mystère de l'incarnation. Et l'idée, c'est de mettre un des principes cruciaux du christianisme dans ces thèmes autour du lion. C'est-à-dire, il y a l'incarnation, la passion du Christ, donc sa mort, et la résurrection à la suite. Les différentes natures du lion sont associées à des thèmes importants. Donc parfois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et la nature en question, le fait qu'il efface ses traces avec sa queue, c'est pas créé de toutes pièces, ce sont des choses qui existent depuis le premier Physiologus et probablement qui sont utilisées dans l'Antiquité, qu'on connaît. C'est des légendes qui apparaissent dans d'autres contextes que purement religieux. Donc on prend quand même quelque chose qui existe sur la nature du lion, qu'on connaît, et on essaye de le faire coller avec quelque chose un peu plus religieux. Donc ça, c'était sa première nature. Alors j'aime beaucoup ces lions parce qu'ils sont tous souriants. Vous avez vu, hein, celui-là aussi était... Voilà, c'est des lions gentils. Alors ce lion, qu'est-ce qu'il fait? C'est sa deuxième nature. Lorsque le lion dort dans son repère, ses yeux sont en éveil et il reste grand ouvert. Donc le lion, en fait, dort les yeux ouverts. Voilà ce qu'on dit. Alors là, l'explication. Tel est ainsi notre Seigneur, le Christ, le lion spirituel, vraiment on précise, son corps s'est endormi sur la croix, mais sa divinité est restée en éveil à la voix du Père. Salomon en rend témoignage par ces mots dans le Cantique, donc ici, l'Ancien Testament. Moi je dors, mais mon cœur est en éveil, vous voyez une citation. Et donc cet épisode, endormi pour la croix, c'est la passion, l'épisode de la crucifixion qui rachète les hommes. Donc c'est une manière de rappeler à chaque fois les thèmes principaux. Donc ce lion souriant, voilà, est une image de la passion, parce qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort, donc il a les yeux ouverts. Et c'est vrai que dans l'iconographie, vous savez, de la passion pendant tout le Moyen-Âge, pendant très longtemps, jusqu'au 12e, 13e siècle, jusqu'au 12e, on représente le Christ sur la croix, mais qui n'est pas mort, qui a les yeux ouverts et qui est vivant. C'est qu'à partir du 13e qu'on commence à le montrer souffrant, mort. Donc finalement, ça a du sens par rapport aussi aux crucifixions qui sont à ce moment-là, qui existent, pour ceux qui écrivent le Physiologus ou qui le connaissent. Et enfin, la dernière nature du lion. Lorsqu'une lionne met au monde un lionceau, le lionceau est mort-né. Et elle veille sur son petit jusqu'à ce que le troisième jour, son père vienne souffler sur sa face et le réveille. Ça, je pense que vous avez trouvé la raison. Tel est aussi le Dieu tout-puissant, le Père de toutes choses, qui le troisième jour a réveillé des morts son Fils, le premier-né, notre Seigneur, pour qu'il sauve le genre humain qui s'est égal. Donc c'est le rappel de la résurrection, le fait que le Christ n'est pas mort. Donc on avait ces thèmes préexistants, je vous dis, dans l'avancée païenne, le fait que les lions sont laissés mort-nés, et c'est vrai que ça peut être expliqué par le fait que les bébés et de toutes sortes de mammifères naissent de manière très... Ils ont l'air complètement amorphes, ils ne bougent pas, ils sont tous, et c'est le père qui les lèche, ou la mère, ça les réveille en quelque sorte. Donc ça vient sûrement de cette observation éventuelle, mais après l'explication, évidemment, ça a marché trop bien par rapport à la résurrection, le fait que le lion ressuscite ses petits, c'était parfait. Donc le lion est très important dans les bestiaires pour ces raisons. On lui crée des natures, enfin on utilise les natures qui existent pour faire des explications chrétiennes qui permettent d'expliquer ses grands préceptes, de tenir. Et donc il est utilisé, vous voyez, au Moyen-Âge en Occident, il n'y a pas énormément de lions, à part dans les ménageries. Mais à cause de cet héritage du bestiaire, de son lien avec l'Ancien Testament et le Nouveau, de sa présence dans la Bible, c'est un animal qui est présent dans la pensée médiévale occidentale, alors qu'on a très peu vu de lions réels. Les gens voient peu de lions, mais ils pensent souvent aux lions. Et c'est souvent le cas de ces animaux du bestiaire. Donc l'idée de ce bestiaire, c'est d'enfermer la nature dans un code sacré, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la nature, c'est un code qu'il faut lire, qu'il faut déchiffrer. Ce que fait l'animal, à la limite, peu importe, mais ce qu'il fait, en fait, c'est un code qu'il faut que je déchiffre. Lui, l'animal en soi, on a besoin de déchiffrer. Donc c'est du commentaire en fait. Vous savez, pendant tout le Moyen-Âge, le statut le plus élevé de la pensée, de la formation, c'est la théologie. Et la théologie, essentiellement, c'est du commentaire. C'est-à-dire, c'est du commentaire biblique. C'est le plus haut qu'on puisse atteindre. Donc on prend la Bible et on fait un commentaire dessus. Donc le fait de commenter en soi, ce qu'on appelle l'exégèse, c'est tout à fait médiéval. C'est le plus haut degré de la pensée, et c'est le fait de commenter. Donc finalement, là, c'est de l'exégèse sur la nature. On voit quelque chose et on commente, on en tire quelque chose d'autre. Donc on est dans cette pensée de commentaire. Alors je vous ai mis d'autres petites scènes. Celle-là, j'avais oublié de la mettre, j'ai rajouté en dernier moment, parce que c'est celle de l'affiche quand même. Il faut que je vous en parle, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc là, c'est un dragon. Et donc, j'ai pas le texte exact hein, du bestiaire, mais en gros, disons qu'on nous explique que le dragon, la seule chose qui effraie un dragon, la seule chose qui peut faire peur à un dragon, mais vous voyez qu'il a peur en fait,
c'est un homme nu. Voilà. Donc vous avez, c'est un manuscrit du 13e, conservé à Oxford, vous avez un petit bonhomme avec ses petites coiffures 13e siècle, là, tout nu, et qui du coup effraie au plus haut degré ce dragon, qui n'est pas très effrayant pour le coup. Donc vous voyez, le dragon, c'est un serpent, mais c'est toujours, en fait, la plupart des dragons sont représentés ainsi, avec une tête un peu de lion, de fauve, des ailes, des pattes griffues, et souvent il a une queue un peu de serpent. C'est le schéma du dragon qui est assez proche de celui qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc l'explication allégorique autour de ça, c'est que l'homme nu, c'est l'homme avant le péché originel, qui est dans le paradis terrestre, qui a commis aucun péché, et donc évidemment le dragon qui incarne le mal a peur finalement de l'homme sans tache, c'est ça. Donc c'est là aussi une image en fait morale qui est utilisée. Alors un de ceux qui vient souvent après le lion, c'est la panthère, qui a donné lieu du coup à une représentation extrêmement amusante, parce que là pour le coup la panthère, ça ne fait pas trop comment la faire. Et la seule chose, l'élément important du bestiaire à chaque fois, c'est qu'elle est tachetée. Elle est bariolée. Le texte dit, selon les textes, hein, en gros il y a l'idée de barioler, tacheter. Et ça sert d'indice pour le peintre. Là vous voyez, c'est en français. Aussi comme des bêtes qui, jusqu'à le mort, suivent le panthère pour la douce haleine qui devant. On va voir ce qu'elle fait la panthère. Vous voyez, donc celui-là, c'est vraiment le type de bestiaire fait pour un homme qui ne parle pas latin, mais qui veut s'instruire sur le bestiaire. Donc c'est en français. Et la petite image vraiment illustre le texte directement. Donc panthère, c'est écrit là, on voit bien. Ce qui est intéressant aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, dans les bestiaires, c'est qu'on a du texte et des images. Donc on sait quel animal représenter. On en est sûr, c'est ça qui veut représenter. Donc on sait que c'est une panthère, on sait que le lion c'est plus facile, mais des fois c'est des animaux très très fantaisistes, hein, dans les formes, on ne pourrait pas les reconnaître si c'était pas écrit. Donc la panthère, que fait-elle? Elle attire les animaux avec sa douce haleine, et le dragon a peur d'elle. C'est ce qu'on nous dit. Donc du coup la panthère est suivie par plein d'animaux, et dès qu'on voit un dragon, j'ai pas mis l'image du dragon, mais souvent on la représente avec un dragon qui se cache dessous parce qu'elle est terrifiée par la panthère. Donc, si vous savez que le dragon a peur d'elle, c'est que forcément elle est positive déjà, en soi. Et donc, la comparaison, c'est que la panthère est comme le Christ. Sa bonne haleine, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc, les animaux suivent la bonne nouvelle, ils sont attirés par ça. Et ils comparent l'haleine au parfum de l'évangile. Qui est une comparaison qu'on trouve dans le Nouveau Testament, où il y a le texte qui dit « Le Christ s'est livré pour nous comme un parfum d'agréable aux odeurs, donc si vous voulez. » Le commentateur s'est souvenu de ce passage quand il a vu le passage sur le parfum, et donc il a mis cet élément. Et donc là, vous avez la panthère qui est suivie par toutes sortes d'animaux. En général, c'est des animaux positifs qui la suivent. Donc les animaux positifs, on a vu qu'il y avait le lion, il y a aussi l'éléphant, et il y a aussi le cerf, qui est considéré comme un animal extrêmement positif, même prestigieux. C'est l'animal de choix pour la chasse. Bon, c'est un herbivore, donc il est pacifique. Et c'est aussi un animal qui, selon les bestiaires, tue les serpents avec son sabot. Donc un animal qui tue les serpents est forcément positif au Moyen-Âge. Et donc là, il est en train de suivre cette panthère qui est extrêmement jolie, avec ses petits points. Alors, j'ai pas résisté à faire une petite sélection de panthères. Voilà. Donc là, vous avez une introduction à un bestiaire. C'est pas que un bestiaire, c'est une encyclopédie, mais qui notamment contient un bestiaire. Et vraiment, vous voyez, on a mis la panthère au centre avec une couronne. Donc là aussi, elle est tachetée avec des points de toutes les couleurs. Et on a mis autour d'elle des animaux divers, donc plutôt positifs. C'est le lion, le cerf et la licorne aussi est extrêmement positive. Je n'en parlerai pas, mais c'est la pureté, là, etc. Une autre panthère, avec tout en bande, donc il y a l'idée de tacheter, parce que parmi ses natures, il y a l'idée qu'elle est tachetée et qu'en fait c'est chacune de ses qualités qui sont autant de tâches. Il y a une comparaison avec ses tâches. Donc l'artiste est obligé de faire des tâches pour que même, enfin même techniquement, il faut qu'il y ait un rappel de ça. Donc là, vous voyez, c'est tous les animaux, donc il y a le cerf qui la suit, enfin, il y en a même deux, on dirait. Et là, il y a des animaux qui sont attirés par elle, on n'arrive pas à les identifier, ils sont sous le charme. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Le castor... C'est un castor. Alors voilà, c'est comme ça qu'on sait, voilà, parce que c'est écrit à côté, on sait que c'est un castor. Mais là, je suis d'accord, il y a pas. Mais c'est vraiment parce qu'il illustre la nature d'un castor. Mais l'artiste ne s'est pas tellement attardé à la question du castor. Il a fait la scène principalement de sa vie. Il a un peu des pattes palmées, on dirait. On dirait fendu devant et palmées derrière. C'est très étrange.
Donc le castor, on ne parle pas de sa qualité pour construire des barrages, de sa grande queue, pas du tout. On parle de d'une utilisation qui devait être pratiquée dès l'Antiquité et qui du coup se répercute, et peut-être même encore au Moyen-Âge, qui est l'utilisation du castoréum, qui est dans ses testicules, qui du coup est un élément utilisé en pharmacie, auquel on prêtait des vertus thérapeutiques. Et donc on nous dit que le castor, lorsqu'il est pris en chasse pour cette raison, pour le castoréum, il le sait, dès qu'il voit les chasseurs un peu trop près, il se coupe les testicules d'un coup dedans. Il le jette vers les chasseurs et comme ça il s'en sort. Alors là, l'explication est très facile à deviner. C'est une occasion pour l'auteur médiéval de commenter sur la vie de tout un chacun. Le castor, c'est le fidèle, le chrétien. Il est poursuivi par les démons et les tentations, qui sont les chasseurs. Et pour leur échapper, il doit renoncer aux biens terrestres et tuer ses démons. Et donc cette scène a donné lieu à toutes sortes d'interprétations du castor, qui est un peu étrange, je suis d'accord. C'est vrai, j'avais oublié même qu'il ressemblait pas au castor. Je m'en suis rappelée en voyant votre réaction. Je me suis tellement habituée à le voir que pour moi c'est un castor. Donc voilà, j'en ai un autre qui est peut-être un peu plus castor. Hein, la queue, un peu plus peut-être. Bon, après ils ont des grands, un petit peu plus quand même. Et donc vous avez, voyez, le nom, c'est écrit, parce que vous allez pas me croire. C'est bien un castor, c'est un très bon bestiaire anglais. Donc vous avez les chasseurs, là les testicules qui ont été récupérés, le pauvre castor qui est en train de s'enfuir, et celui-là qui se tranche les testicules. Donc c'est vraiment, là aussi on est dans l'art de la... On reprend des thèmes liés à l'art de la mémoire qui veut que pour se souvenir de quelque chose, il faut que ça soit original, fantaisiste, même vulgaire éventuellement, pour que la mémoire s'en souvienne. Et ça on le sait dans les traités médiévaux, ils le disent. Hein. Si tu veux te souvenir de quelque chose, imagine quelque chose vraiment obscène. Donc là, c'est l'idée, on crée une image qui est quasiment inoubliable. Je ne sais pas si vous allez l'oublier, au moins d'ici la semaine prochaine. Mais c'est une image, voilà, l'idée c'est de se souvenir de la... C'est vraiment une morale assez forte. Alors, autre animal qui est... il m'en reste deux, après on arrêtera, parce qu'on ne va pas faire tous les animaux du bestiaire. La grue. La grue est un animal assez représenté, même en dehors des bestiaires, après, par rapport à ce qu'on lui attribue. Plutôt positivement, on la considère comme on sait que les grues volent depuis l'Antiquité, on le dit, ça pline le lit, donc ils ne disent pas non plus que les sottises, hein, qu'il y a toujours une qui guide les autres, et puis quand une est fatiguée, c'est l'autre qui prend la tête, et puis elles se suivent comme ça de manière ordonnée, donc elles sont plutôt positives. La nuit venue, elles veillent à tour de rôle les unes sur les autres, disent-ils. Alors ici, ce que vous avez, c'est le fait que Pline nous dit, c'est Pline l'ancien qui nous dit ça, que les grues sont migrent en fait, et qu'elles migrent notamment en Afrique. Et quand elles arrivent en Afrique, elles sont en guerre contre les pygmées. Ce sont les petits personnages, les pygmées, qui connaît. Et en fait, c'est ce que vous avez représenté là. De manière très médiévale, cette manière, on actualise à chaque fois les scènes, on ne représente jamais. Dès qu'il y a un guerrier, il est représenté comme un guerrier occidental. Puis on ne cherche pas à faire une formation en antique ou quoi que ce soit pendant le Moyen-Âge. Donc c'est des petits soldats, il y en a qui sont en train de combattre les grandes grues. Du coup, c'est des pygmées, ils sont petits, et ils ont ces grandes grues avec cette petite calotte rouge. Et là, ça, c'est pas la caractéristique la plus connue de la grue. Le plus connu, c'est ça. C'est le fait qu'elles veillent les unes sur les autres, et notamment qu'il y en ait une dans le groupe qui est dédiée à veiller sur les autres, qui tient un caillou dans sa patte. Et donc quand elle s'endort, le caillou tombe. Et donc ça la réveille et ça lui permet de réveiller les autres. Et donc c'est considéré comme une image de la prévoyance, du fait de veiller et de surveiller les autres. Et très souvent dans les manuscrits, on a des grues en train de tenir des cailloux. Ça devient une sorte de... Je ne pense pas que les grues tiennent des cailloux en vrai. Mais c'est vrai qu'elles sont souvent la patte comme ça.
Mais alors, excusez-moi, l'image précédente, elle signifie quoi en gros ?
L'explication sur les grues et les pygmées, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose parce que ça me sert ça aussi. Ils ont dû trouver une explication sur les grues qui, là j'avoue, je ne sais pas.
En guerre contre les pygmées, c'est-à-dire les populations.
Ça peut être une explication, comme la grue est plutôt positive, peut-être que les pygmées c'est quelque chose de négatif et en lien avec ces tentations. Comme l'image du chasseur, souvent c'est quelque chose de négatif dans les bestiaires. C'est toujours celui à qui il faut échapper, c'est en lien un peu avec le diable. Et souvent le chasseur, voilà, pour le castor, il chasse aussi la licorne qui est positive. Donc là, c'est la prévoyance, et ça reste, on trouve très souvent des crues avec des cailloux. Il y en a une autre ici, je vous dis, qui est très jolie, oui, avec les autres crues, qui... C'est le même manuscrit que celui où il y avait le castor tout à l'heure, avec ses ronds très colorés, où on passe les scènes. Donc vous avez les crues qui dorment, les yeux fermés, et la petite crue qui veille avec son caillou dans la patte. Et donc c'est dans ces bestiaires qu'on va trouver, je vous disais, l'éléphant qui a peur des souris, on a trouvé ce genre de choses, l'éléphant qui a de la mémoire, les crocodiles qui pleurent, les larmes de crocodile, toutes ces idées qu'on connaît depuis qu'on est petit autour des animaux sont cet héritage-là un peu fantaisiste de l'Antiquité, qui est passé par le Moyen-Âge et qui arrive jusqu'à nous. On ne se souvient pas toujours de la morale qu'il y a derrière. Finalement, c'est l'aspect mnémotechnique qui est resté, mais la morale, elle n'a pas suivi. Mais c'est amusant, l'histoire est restée. On se souvient encore de ces histoires. Et donc, mon dernier petit animal, pour finir, ça sera l'abeille. Qui souvent est rangée avec les oiseaux, donc je vous disais, parce qu'elle n'est pas vraiment insecte, elle a quand même un statut un peu plus positif que les insectes, donc que les vers, donc là sur les plantes de vers. Donc on la met avec les oiseaux, et dans ses bestiaires, elle a vraiment une petite représentation d'oiseaux, là sur un fond d'or, donc vous avez la ruche et les petites abeilles dessus. Elle a une symbolique positive, on dit donc que c'est le plus petit des oiseaux, qu'elle vit dans des communautés, qui choisissent le meilleur d'entre eux pour être roi, c'est pas des reines, mais là, c'est des rois. Qui font la guerre et qui font du miel, ce qui est plutôt positif, que chacun respecte la loi, que chacun respecte sa tâche, ça c'est utilisé pour décrire les modèles de société. Et aussi ce sont des modèles de chasteté, puisqu'on considère, on pense qu'elles naissent comme ça du néant, qu'elles apparaissent ouf d'un coup. Les insectes en général, on a l'impression qu'ils apparaissent sortis de rien. Donc du coup c'est des modèles en plus de chasteté, ce qui rajoute à leur bonne image. Donc souvent la ruche est utilisée comme un modèle de l'église, où chacun est à sa place, respecte ce qu'il doit faire, et suit les ordres d'un roi. C'est le modèle de société. Et ça va être pris là aussi pendant tout le Moyen-Âge. Par exemple, il y a un traité du XIIIe siècle, écrit par un Thomas de Cantimpré, qui a écrit un livre sur le bien universel fondé sur les abeilles. Et donc il dit qu'il a choisi les abeilles, d'abord parce que, on retrouve l'idée mnémotechnique, ça va attirer l'attention du lecteur. Il dit, quand les discours rebattus sur les écritures n'émeuvent plus l'auditoire, il pourra du moins attirer l'oreille des paresseux en parlant de quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment l'idée qu'on utilise des animaux, parce que ça réveille un peu l'attention de ceux qui écoutent. Ils disent, ah, les animaux. Et donc c'est un traité sur la morale, sur ce que doivent faire les chrétiens, les fidèles. Par exemple, les abeilles se taisent toutes à la tombée de la nuit, donc le silence et ses vertus. C'est pas mal que les abeilles. Donc voilà, en conclusion, je vous ai mis d'autres petites abeilles, je crois, voilà, qui sont un peu pareilles. C'est sûrement des bestiaires qui sont...
Oui, excusez-moi, une question germe quand même. Donc la reine des abeilles est devenue roi dans leur
pays.
Est-ce que c'est lié à la loi, au fait qu'on appartient à un pays qui subit la loi salique, ou est-ce que dans d'autres pays d'Europe, on voyait les choses différemment?
Non, dans l'Antiquité déjà, elle est. Déjà, c'est pas des filles, c'est des. Une reine. Vous n'y pensez pas. Déjà dans l'Antiquité, c'est des hommes qui dirigent.
C'est
mais ça aurait pu, oui, c'est peut-être utilisé à un moment comme plus regardé comme les abeilles qui ont un roi, c'est possible. C'est possible. Donc ici, et d'autres petites abeilles un peu plus réalistes ici. En train d'aller de la ruche à leur.
Avec la
petite ruche en. Elles sont un peu plus réalistes que les autres. Oui, c'était pour acheter un peu. Voilà, donc en conclusion. Il faut retenir que tout cet héritage médiéval parvenu jusqu'à nous est un héritage antique. On est quand même. Toutes les petites histoires sont des histoires antiques. Ça existe déjà auparavant, notamment Pline l'Ancien. Enfin, vous lisez l'histoire naturelle, vous trouvez plein d'histoires encore en cours aujourd'hui. La manière dont il observait les animaux, la manière dont les animaux apparaissent dans la vie, vont quand même structurer notre regard sur le statut des animaux. Les anciens classements. Entre les animaux positifs et négatifs ont persisté encore aujourd'hui. Par exemple, il y a un livre de chasse qui s'appelle, qui n'est pas vraiment un traité de chasse, hein, c'est un faux traité de chasse, c'est un traité en fait moral aussi, on fait croire que c'est de la chasse mais ça n'est pas. Il s'appelle le livre du roi Modus et de la reine Ratio, écrit au XIVe siècle, et l'auteur distingue les bêtes douces et les bêtes puantes. Et les bêtes douces, c'est le cerf, la biche, le daim, le chevreuil et le lièvre, ce qui colle avec notre propre vision des animaux. Et les bêtes puantes, ce sont le sanglier, toujours très mauvaises images, le loup, le renard et la loutre, qui vont être encore considérés comme des nuisibles, ce qui serait l'équivalent du puant qu'on leur a pris qu'on voyage. Parce que étant éventuellement des prédateurs, susceptibles de saccager, tout ce que fait l'homme. Et même les autres critères anciens ont persisté, c'est-à-dire même en lien avec. C'est pas forcément lié à ce qu'on pourrait dire finalement, c'est vrai que le loup c'est un prédateur, donc c'est pour ça qu'il y a des mauvaises images. C'est pas que au Moyen-Âge, mais en fait, non, il y a des animaux. Il n'y a aucune raison de les considérer mal, mais ils ont gardé cette mauvaise image. Donc, notamment les animaux nocturnes, je vous le disais. Donc, au Moyen-Âge, les hiboux, les chouettes, enfin, tout ce qui vit la nuit a une image absolument catastrophique, et ça a perduré pendant longtemps. Enfin, ils sont en train de se refaire une image un peu, mais
l'histoire des chouettes crouées sur les murs, c'est quand même assez. Elles n'avaient aucune raison d'être crouées sur les murs en soi. Ça mange des souris. Bon. Donc, cette mauvaise image a persisté. Ici, vous avez une chouette donc, en train de se faire attaquer. On dit que la chouette, sa nature, c'est qu'elle se fait attaquer par les autres oiseaux du jour. Quand elle sort le jour, en fait, elle se fait attaquer par les autres oiseaux parce que c'est un animal qui refuse Dieu, qui vit la nuit, qui ne veut pas voir la réalité. Et en termes de comparaison, et vous voyez que cette chouette a une tête un peu étrange, c'est comparé aux juifs. On est plein dans l'antisémitisme médiéval. Donc on lui a fait ce nez crochu. Il existe déjà au Moyen-Âge. On le trouve dans les caricatures de juifs. Et donc l'idée, c'est que le juif n'a pas vu la nouvelle loi, le Nouveau Testament, il reste dans l'ombre de l'ancienne. Et donc il refuse d'enlever le voile. Donc il est à l'égard de la chouette qui refuse d'avoir le message. Et donc cette mauvaise image des animaux nocturnes vraiment a persisté très clairement encore jusqu'à aujourd'hui.
Excusez-moi, oui. Et la pie alors est plutôt un animal positif.
Mais disons qu'elle est comme elle est diurne déjà, c'est mieux. Comme elle est du jour. C'est surtout ça, c'est vraiment l'idée entre jour et nuit qui. D'ailleurs, le renard, là, le loup, je sais pas trop, mais le sanglier, enfin, c'est aussi des animaux qui ont tendance à vivre plutôt la nuit. Et le fait de vivre la nuit est en soi très négatif. Donc ces animaux-là ont eu cette image-là. Et de manière générale aussi, tout ce qui peut avoir. Un peu trop la couleur noire et un peu trop de poils qui se rapproche des images du diable va aussi avoir une mauvaise image. Pas un peu attirant, soit par comparaison avec le diable et ce qu'on donne. Voilà, donc on a quand même un héritage assez fort sur ces animaux qui méritent encore d'être réhabilités. Et je pense que vous avez des questions peut-être, donc je m'arrête là et je.
Car je n'imaginais pas que le bestiaire est un rôle moral en fait.
Et si, oui.
Voilà. Alors, les questions. Qui veut faire les questions? Je vous passe.
Allez.
Merci, c'était très agréable d'écouter quelqu'un de passionné. C'était passionnant. La question que je me poserais, c'est à propos de la licorne, des animaux comme ça, donc inventés, recréés, etc. Ça apparaît à partir de quand et est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à ça?
Alors la licorne, elle est dans le premier, dans le Physiologus grec, déjà. Il me semble qu'elle apparaît même encore avant. Avant Jésus-Christ, le 4e siècle, dans les textes orientaux. Et alors, c'est une bonne question, parce que j'aime beaucoup la licorne. Elle est. Elle a un héritage, en fait, qui est, du coup, antique, païen, et plutôt érotique. Les histoires autour de la licorne, donc c'est. La licorne est un animal farouche, difficile à attraper, et qui peut être dangereux. Et la seule personne qui peut attraper une licorne, c'est une jeune fille vierge. Donc, la corne, la jeune fille vierge, bon. Donc la jeune fille arrive et l'odeur de la jeune fille attire la licorne. Et la licorne se pose contre le sein de la jeune fille et là les chasseurs arrivent et tuent la licorne. Donc cette histoire existe dans l'Antiquité et ça va être interprété religieusement, ce qui est assez. Il y a plein de textes cantiques, c'est l'Ancien Testament et c'est aussi cet héritage érotique. Et donc ça va être transcrit en étant que la Vierge c'est Marie, la licorne c'est le Christ, et donc. La Vierge a donné naissance au Christ, elle a attiré le Christ et l'a amené pour les hommes, et le chasseur, c'est le diable qui a tué. Voilà. Donc la licorne a une très bonne image. Dans les vestiaires, elle est extrêmement positive. Vous savez qu'on a les. C'est au musée de Cluny à Paris, au musée du Moyen-Âge, même ailleurs, je crois qu'ils en ont. Ils ont des cornes de Nerval, qui sont ces poissons, des grandes cornes, qui sont considérées comme des cornes de licorne, du coup. Et qui ont une vertu, on s'échange de la poudre de corne de licorne pour lutter contre les poisons, par exemple. Ça a une vertu extrêmement positive. La licorne, elle est l'image, c'est presque la plus positive, parce que le lion, des fois, peut être ambigu, la licorne, elle est toujours positive. Mais il y a enfin, ça, c'est la bonne licorne. Il y a dans les vestiaires, parfois, une autre licorne qui est un peu plus proche du rhinocéros, ça veut dire, qui est dans les descriptions. Du coup, une licorne est une bête vraiment féroce, qui a une grosse corne qui peut charger ses ennemis, enfin, qui est décrite, en fait, on a l'impression d'avoir un rhinocéros. Et qui a du coup moins l'image. Ça dépend en fait du texte sur lequel on tombe. Si c'est un bestiaire, c'est cette histoire-là, la Vierge, la licorne, du Christ. Si c'est une encyclopédie qui s'intéresse moins à la morale, il va parler de plusieurs licornes. Il va dire il y a la licorne qui est comme ça, mais il y a aussi la licorne qui est féroce. Il y a toute une description. Et depuis l'Antiquité, la licorne, c'est. Du coup, on la voyait, j'en avais une là tout à l'heure. Il me semble que j'en ai une à un moment.
Voilà. Là, c'est une licorne un peu cheval, malgré tout, elle ressemble à un cheval avec une corne. Mais dans l'Antiquité, donc on parle de la licorne donc, avant le monde chrétien, on la décrit comme une chèvre plutôt avec une corne. C'est plutôt une petite chèvre en fait. Et souvent, on a dans le. Si vous regardez la dame à la licorne, la tapisserie, la dame du musée de Cluny, c'est une chèvre avec une corne. Elle a des sabots fendus, elle a une grosse barbichette, elle est vraiment une petite chèvre avec sa corne. Et c'est vrai que maintenant, la licorne, souvent, c'est plutôt un cheval. Dans l'esthétique actuelle, elle s'est beaucoup changée en cheval. Parce que je pense que le cheval a une meilleure image que la chèvre. C'est pour ça. Oui.
Je vous laisse faire un peu, je ne peux pas prendre la décision. Tout à fait à la fin de votre conférence, vous avez dit que le diable avait du poil. Et qui a dit ça, Licorne?
Je ne sais pas d'où ça sort cette idée de poil, mais c'est vrai que dès le début, il est dans le. Après, le poil, c'est la. Enfin, c'est l'animalité, en fait.
Oui.
Donc, il a un peu tous les critères des animaux, mais en excessif. Il a des griffes, des poils, des. Par exemple, il y a pas mal de légendes au Moyen-Âge aussi sur les hommes de la forêt. Il y a des hommes sauvages qui sont des hommes tout poilus. Vous savez, des espèces de créatures comme ça avec plein de poils. Et tant qu'ils ont tous ces poils, ils sont du côté du sauvage, de la bête. Et s'ils enlèvent leurs poils, ils vont devenir. Là, il y aurait une histoire du poil qui a été faite, hein, je pense. Il me semble, les poils, les cheveux, les tout. Et d'ailleurs, on est encore habitué de ça. Les poils, ils sont pas anodins, même pour nous. C'est pas forcément le diable, mais il y a quelque chose avec les poils qui est resté. Bah oui. Voilà.
Bon.
Bravo. N'hésitez pas, si vous avez des questions.
Est-ce que vous avez encore des questions?
N'hésitez pas.
Oui, c'était juste pour vous dire, par exemple, par rapport à la panthère, et vous nous disiez que les textes grecs étaient arrivés pour une partie, en tout cas au moins pour Aristote.
Aristote, oui.
On sait tous donc que pour les Grecs anciens, la panthère est reliée à Dionysos. Est-ce que ça a pu influencer d'une façon ou d'une autre nos bestiaires médiévaux, ou alors ils n'étaient pas du tout au courant et donc ça ne les a pas influencés?
Je ne sais pas si, hein, peut-être, oui, avec le côté. Avec Dionysos, je ne sais pas. Je sais qu'ils font une explication étymologique avec le pan, du coup, qui veut dire tous. Et donc ça marche bien avec l'idée qu'elle attire tous les animaux. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai regardé le dictionnaire d'étymologie actuel, hein, de Robert, où il utilise de nouveau le pan en supposant que ça vient de l'animal qui attrape, cette fois qui attrape tous les animaux. Au Moyen-Âge, on pense que c'est l'animal qui attire tous les animaux, et c'est amusant. Alors que même aujourd'hui, les étymologies, elles sont. Il y a une espèce de persistance. Mais j'avoue, je ne sais pas pour Dionysos. Peut-être que. C'est bon, ça va. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a un animal qui vous semble nécessaire?
Il me semble oublié.
Le pélican.
Le pélican, oui.
Le pélican, il est plutôt christique, le pélican. Il est. Parce qu'il se. Je pense pas qu'il fasse ça en vrai non plus, mais on pense, hein, qu'il se perce le poitrail, que la maman pélican se perce le poitrail, et que de son sang, elle nourrit ses petits. C'est parce que vous savez, ils font leur truc là de purgité. Voilà. Donc ça a donné cette idée. Et c'est vrai que le pélican, souvent il y a des crucifixions, ou même des croix. Et en haut de la croix, il y a un pélican en train de faire ça sur ses petits. Parce que vraiment, c'est le sacrifice. Enfin, c'est le père qui se sacrifie pour ses enfants, donc ça colle tout à fait avec le Christ. En plus, il y a l'idée du sang qui coule.
Bestiaire de papier, bestiaire de pierre. Est-ce qu'on peut aussi rêver?
En sculpture,
oui.
C'est,
13e, 14e.
On retrouve, oui, on va retrouver par exemple, on retrouve des ça devient presque des clichés. Par exemple, on va trouver la grue avec son caillou, des oiseaux qui sont attaqués par d'autres. Il y a certaines images qui deviennent des clichés. La licorne avec la Vierge, la Vierge avec la licorne sur ses genoux, ça devient un cliché aussi. Donc on va les trouver par-ci par-là dans les chapiteaux. Mais souvent dans les chapiteaux, il y a aussi le côté plus des scènes, plus d'animaux qui se battent, qui se mangent, qui se. On est dans le bestiaire, il y a plus le côté la beauté des animaux et puis le côté entre-dévorés comme ça.
Oui, pour en venir aux hybrides, il y a évidemment les hybrides humains, animaux, vous avez abordé centaures, ouais, sirènes, etc. La symbolique par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Ils sont plutôt négatifs.
C'est négatif.
Ah, oui. La sirène est... Donc la sirène antique, vous savez, elle a des ailes. La sirène médiévale, très tôt, c'est une ancienne poisson. Donc il y a un peu les deux différences, mais elle fait la même chose, elle tue les marins. Donc du coup... Et puis en plus, la sirène...
Et ça a démarré quand, c'est déjà parmi quand.
Ah, ben, depuis l'Antiquité, depuis le plus ancien, c'est l'Ulysse. Ouais. Et c'est vraiment une image de la tentation. La sirène, on la représente, c'est une femme déjà. Elle a des cheveux longs, donc elle a beaucoup de poils. Ses cheveux longs, elle est torse nu, ou éventuellement en général si. Et puis souvent elle est représentée avec un miroir en train de se... Comme Ariel, la petite sirène. Elle est en train de se peigner, elle se regarde. Et c'est vraiment une image de la tentation, de la tentatrice. Et c'est ça, dans Ulysse, c'est exactement ça. Elle attire les marins dans les profondeurs, elle les tue. Donc c'est parfait, au niveau de l'allégorie morale, c'est... Si tu sais de tentation, tu vas tomber dans l'enfer.
Et du côté femme, alors le centaure...
Et le centaure dans l'Antiquité, il est plutôt positif, parce qu'il y a... C'est Chiron, il s'appelle.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc il est plutôt... Et dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, honnêtement, ceux qui sont moitié hommes, moitié bêtes, en général, ils sont trop du côté de la bestialité. Je crois pas qu'il y en ait qui aient une bonne image, en fait. Faut vérifier, mais je pense pas.
Quelqu'un qui...
Oui, j'avais entendu un petit animal, mais...
C'est des pélicans.
Non, là, c'est
oui, quand même. Je pensais que les fables des orques et après de la fontaine se sont inspirées.
Oui, mais ça, oui, il y a le même, ils font le même fond. Après, dans les hommes, je ne sais pas exactement si elle est.
C'est une de la.
Je ne sais pas si les hommes reprennent des choses qui sont, si dans le physiologie, il y a des choses des hommes, mais c'est le même fond culturel. Sur ces grecs.
Bah oui,
ouais.
La fontaine, c'est inspiré des fables.
Ah oui, la fontaine, c'est sûr. Oui.
Mais qu'on retrouve dans le roman du renard, ou bien au renard lui-même, vous avez dit que c'était des animaux plutôt négatifs, ouais. Mais ce qui me semblait aussi qu'il y avait l'effet de la ruse,
oui.
L'animal habile, l'animal malin.
Oui, alors c'est tout le problème en fait, c'est que je vous ai parlé d'un... En fait, je vous montre un aspect très biaisé, qui est celui du traité de morale. Alors qu'il y a toute la vie aussi des littératures profanes, le roman de renard, où effectivement on voit qu'il y a une attachement à ces animaux. Enfin, le renard il est malin, il est... Certes, alors la ruse, si c'est un religieux qui parle, en clair, ça va être le diable, parce qu'il va voir ça. Mais la ruse, si c'est quelqu'un du commun qui parle, il va voir aussi le côté malin, ou quelqu'un qui se débrouille et qui arrive à...
Par conséquent, entre la pensée médiévale chrétienne et la pensée médiévale de tout un chacun profane, il faudrait établir quand même déjà une différence aussi.
Ah mais c'est comme si j'essayais d'écrire le monde d'aujourd'hui en parlant de bestiaires, enfin je sais pas si ça n'existe plus, mais d'un traité de morale, c'est très particulier, on parle vraiment d'une littérature très particulière, qui en plus sont des livres enluminés, donc ils sont restés à cause de ça. Ils ont perduré dans le temps parce qu'ils étaient beaux, souvent les livres les plus beaux ils restent sur les autres. Et le roman de renard aussi sont illustrés, c'est vrai qu'ils sont restés. Et je pense qu'il y a des fables aussi autour des animaux, un peu plus dans la du jeu sur l'animal plutôt que vraiment la morale.
Donc la morale chrétienne n'est pas la morale de tout un chacun.
Ah ben non, mais c'est vraiment l'idée à chaque fois, c'est plus de donner des exemples pour se souvenir de ce qu'il faut faire. Et mais malgré tout, ça a influencé un peu à force de répéter sur la vision qu'on peut avoir des animaux, je pense. Ça existe déjà et je pense que ça a concrétisé ça.
Et autre chose aussi qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est l'histoire du dragon. Sur certains tympans, je pense au tympan de l'église de Sayac, on voit une scène d'avalement. Une scène d'avalement où vous avez un dragon qui avale un homme. Et on m'a toujours dit que c'était le thème du passage, de la mort en fait, l'avalement de l'homme par le dragon. Mais là, le dragon, il est plutôt peureux.
Celui-là, il est vraiment... Je me suis un peu mignon, parce que d'habitude, il y a des
ils sont toujours, ils sont toujours comme ça, heureux, quand on a venu.
Non, mais si, l'homme est venu, donc c'est bon à savoir, en fait.
C'est une bonne recette.
Si on n'a pas rien, il faut se déguider, c'est ça.
Il y a un dragon qui arrive, surtout là,
faut se déguider. D'accord.
Mais la peur aussi du coq blanc, il y a tout un truc avec le coq blanc qui fait peur au dragon, il y a une symbolique autour du coq.
C'est
pas facile à trouver en commun. Mais c'est riche d'anecdotes, c'est vrai qu'il y a tout un.
Bon, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Écoutez, on a été vraiment émerveillée par votre savoir, c'est très nouveau pour nous, parce que nous, on est toujours dans l'histoire, mais là, l'histoire animale, on ne la voyait pas, c'est un beau sujet. En fait. Et moi, j'ai envie d'ajouter que maintenant, on sait, parce qu'on continue, on est toujours dans le deuxième, dans le premier courant, l'homme supérieur à l'animal, mais maintenant, on s'aperçoit que quand même, l'animal, enfin, on ne s'aperçoit pas, on le sait, mais c'est très récent.
C'est pour ça que je pense que les études, vraiment partout dans le monde, commencent à apparaître.
Enfin, l'animal a des sentiments. Malheureusement, on le maltraite. Voilà, mais écoutez, l'association des amis de la Raimondie vous remercie infiniment de votre présence. Elle vous invite à partager un petit apéritif si vous en avez envie maintenant. Mais il y a de tout, hein. Il y a des jus de fruits, il y a aussi un petit peu de vin et des choses à grignoter. Il y a une petite boutique au fond de la salle. Et si vous voulez continuer à nous aider et à nous suivre, vous avez notre programme aussi déjà. Et vous pouvez aussi vous inscrire et faire partie des amis. Voilà. La prochaine conférence qui va avoir lieu va se produire à Saint-Denis-les-Martels sur le thème du Causse de Martel et du puits dissolu, qui est le même en fait de même cause coupé par la vallée de la Tourmente. Donc elle est donnée par un hydrogéologue, donc c'est vraiment une conférence plutôt sur la géologie de notre territoire. Et elle se fera à 18h à la salle des fêtes de Saint-Denis. Autre chose encore à signaler, nous, par rapport à notre association, le 9 juin, nous avons Marguerite Guély qui va donner ici une conférence sur Martel, puisqu'elle est spécialiste de la Sénéchaussée de Martel et de sa Sénéchaussée, qu'elle vient depuis 3 ans. Donc le titre est de la boutique. De la boutique, puisque Martel a d'abord été une ville marchande, de la boutique au tribunal. Je trouve que ça illustre bien un petit peu l'histoire de Martel. Voilà. De la boutique au tribunal, c'est-à-dire du rôle marchand de la ville de Martel à son rôle de ville juridique de façon permanente à partir du XIVe siècle jusqu'à la Révolution française. Le 22 juin, alors, il y aura une grande conférence aussi sur le thème de l'ours, avec Michel Lorblancher, Michel Philippe, qui est un paléontologue réputé, et Jean-Louis Tocaven, un spéléologue, qui ont découvert, Jean-Louis Tocaven et Michel Espéré ont découvert en tant que spéléologue un crâne d'ours qui est aujourd'hui au musée, mais c'est l'ours des cavernes, c'est pas l'ours actuel, et donc ils vont nous parler de l'existence de la vie de l'ours. Monsieur Philippe est spécialiste de la vie de l'ours des cavernes, puis de sa disparition et enfin de sa représentation sur les grottes fornées du département, dont Michel Lorblancher est un grand spécialiste aussi. Et entre tout ça, il y a le vendredi 12 mai à la salle des Mathieu à Saint-Denis une exposition de photos sur les fouilles anciennes et les fouilles récentes, une exposition réalisée sur les fichiers de Jean-Pierre Giraud, le grand fouilleur moderne du Puy dissolu, réalisée par l'Association des Amis du Xénon du Nord, avec laquelle on est partenaire, tout comme avec Racine, représentée ici par Monsieur Fond. Voilà. Donc, voilà notre calendrier. Et ensuite, le musée rouvre à partir du 20 juin de façon permanente, enfin 3 jours par semaine, parce que comme vous le savez peut-être certains, nous n'avons plus notre animatrice permanente qui s'occupait du musée, donc les bénévoles vont s'y succéder pour assurer l'ouverture du musée. Donc en ce moment, nous avons installé une nouvelle exposition qui a été prêté par le Pays d'Arrêt d'Histoire, une exposition sur le patrimoine bâti, c'est-à-dire les maisons quercinoises, maisons fermes, maisons de ville, maisons des champs, on peut dire. Et nous avons mis cette exposition en corrélation avec des maquettes de maisons qui ont été données à la ville de Martel par M. Fatisson il y a plusieurs années, hein, il y a bien 20 ans, je ne sais pas exactement. Voilà, et donc maquettes et expositions vont bien ensemble. Voilà, mais écoutez, je vous invite à... Merci infiniment. Et je vous invite à prendre quelque chose, à vous restaurer à la sortie. Alors.
Merci.